Messieurs, dames, et merci de venir aussi nombreux pour faire un petit voyage en ballon. Donc, c'est la 17e année qu'on organise un salon du livre avec des thèmes qui tournent toujours autour du voyage. Et habituellement, on remercie les gens qui nous ont aidés à faire cette manifestation, à savoir le Conseil général, le Conseil régional, la mairie de Poitiers et l'espace Mendès France. Cette année, donc, c'est l'association de quartier Blessac-Saint-Hilaire qui organise cette manifestation. Et cette année, il y a eu un petit changement, une petite révolution dans l'association, à savoir notre présidente, Mademoiselle Fenaillon, a pris sa retraite, on peut dire, étant arrivée à l'âge, et elle a été remplacée par Monsieur Gervise, ici présent. Je ne le vois pas. Non, là-bas, voilà. Monsieur Gervise, nouveau président de l'association de quartier de Blessac-Saint-Hilaire. Alors ce soir, la conférence, comme vous l'avez peut-être vu, c'est Le voyage en ballon de Pilate de Rosiers à Bertrand Piccard. Et il va y avoir trois intervenants. Deux rats de bibliothèque, mon camarade Pierre-Yves Chanal et moi-même, et un homme de terrain, si je peux dire, pour quelqu'un qui fait du ballon. Monsieur Jean-Daniel Ouvrard. Alors, c'est divisé en trois. Les tout débuts de l'aérostation, c'est les Français. Là, c'est une découverte incontestable. L'avion, la voiture, on peut nous le contester. Et les Anglais, enfin non, les Allemands pour la voiture, les Américains pour l'avion. Le ballon, personne ne nous l'a contesté. C'est nous qui, les premiers, avons fait un voyage aérien avec Monsieur Pilate de Rosiers. Donc, la première partie, ça va être vraiment les tout débuts de l'aérostation. Après, en fait, on s'est aperçu très vite que ces ballons, ben, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Donc, on a essayé. Le rêve, très vite, c'était de pouvoir diriger ces ballons. Donc, il y a eu toute l'époque des dirigeables. C'est Pierre-Yves qui va nous en parler. Et ensuite, il y a eu, après, l'abandon du ballon au profit de l'avion. Mais là, depuis les années 60-70, il y a eu un renouveau, un regain d'intérêt pour les montgolfières, justement, c'est-à-dire les premiers ballons. Et c'est Jean-Daniel Ouvrard qui nous en parlera parce que c'est son métier. Voilà, c'est sa vie, on va dire. Donc, on commence par les débuts. Donc, s'il y a une époque, je lance une petite bêtise. Il y a quelquefois, il n'y a pas si longtemps, à la radio et à la télévision, on entendait « nous lâcherons rien, nous lâcherons rien ». Mais là, ce soir, c'est le mot d'ordre, c'est « lâcher tout ». Puisqu'en fait, quand le ballon est là, prêt à décoller, c'est des hommes au sol par leur poids qui le retiennent. Et les gens qui sont dans la nacelle disent lâchez tout, parce que tout le monde doit lâcher en même temps. Autrement, le gars se retrouve suspendu au bout du fil. Donc, on y va. Donc, l'homme rêve depuis toujours de voler. Et même, j'avais une pensée pour Mademoiselle Fenaillon qui aime bien les petits chats. Je pense que s'il y a des bestioles qui voudraient aussi voler, c'est un petit chat, quand il court après un moineau et qu'il voit le moineau s'envoler sous ses yeux, il dit « Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à voler ?» Eh bien, l'homme aussi, il voulait voler. Et avant même qu'on puisse voler, il y a des tas de gens qui ont imaginé toutes les possibilités. Souvent, on voulait voler en se mettant des ailes au bout des mains, mais évidemment, on n'est pas assez fort pour voler comme ça. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Jules Duhem, qui a fait deux livres qui sont formidables, parce que c'est une anthologie des idées aéronautiques avant montgolfière. Et donc, c'est une compilation de tous les ouvrages, aussi bien les ouvrages scientifiques qui se voulaient sérieux et les théories, que les romans qui ont parlé de vol pour l'homme. Et donc, ce monsieur, il était professeur professeur à l'école normale de Montpellier. Mais ces livres sont peu connus parce qu'ils sont sortis en 1943 et en fait ils sont passés un peu inaperçus. C'est très dommage parce qu'ils sont très, très riches en informations. Voilà. Alors donc, entre autres, dans ce livre, on parle d'un frère Francesco Lana de Brescia en Italie, qui avait dans un livre où il fait une compilation de découvertes, de théories, expliquer comment on faisait un bateau volant, c'était très facile parce qu'il suffisait d'avoir des boules dans lesquelles vous faisiez le vide, puisque c'est le ballon, c'est le principe d'Archimède, c'est tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale, hein, au volume déplacé. Donc, il faisait le vide. Et alors, il avait trouvé la technique pour faire le vide, c'est très facile. C'est que vous mettez, vous savez, la colonne de mercure abaisse à 76 cm, la colonne d'eau, c'est 10 mètres. Donc, il suffisait de mettre une colonne d'eau de 10 mètres, de renverser le ballon, et le vide se faisait dans le ballon. Mais évidemment, ça ne peut pas marcher parce que la boule est écrasée. Il avait envisagé de faire des parois en cuivre très minces, et par la pression atmosphérique, le ballon est écrasé, donc ça ne peut pas marcher. Mais la théorie et l'idée étaient là. Il fallait des ballons plus légers et ça flottait dans l'air. Et il y en a un autre qui avait eu une idée aussi un petit peu bizarre. C'est à Avignon, le père Galien. Le père Galien, il pensait, comme vous avez l'eau et l'air, en fait, l'air, il y aurait eu aussi plusieurs couches d'air de densité différente. D'ailleurs, il y avait sa couche d'air de la grêle. Parce qu'évidemment, regardez, quand vous ne savez pas comment ça marche, vous voyez de la grêle qui tombe du ciel. Et d'où vient cette grêle? Comment elle était quelque part avant de tomber? Donc, il avait pensé qu'il y avait un niveau d'air avec, où il y avait une différence comme entre l'eau et l'air. Et il dit, il suffit de monter sur ce niveau et à ce moment-là, vous pourrez naviguer sur cette couche d'air comme vous naviguiez sur l'eau. Eh bien, le jeu, c'était de monter là-haut. Et personne n'avait réussi. Et après, on a donc nos fameux... Ou alors, c'est le père Galien, c'est ce que je viens d'expliquer. Et puis, donc, arrivent les frères Montgolfier. C'est eux qui vont découvrir et qui vont fabriquer les premiers aérostats. Un petit peu par hasard, parce qu'ils n'ont pas su trop ce qu'ils faisaient, en définitive. Alors, le génie de l'histoire, c'est Joseph. Joseph, c'était un garçon un petit peu turbulent, un petit peu... C'était le roi, moi je l'ai appelé le roi de l'école buissonnière, parce qu'en fait, il ne tenait pas en place, il ne tenait pas l'école. Il a même fait à l'âge de 13 ans une fugue, donc ils étaient à Annonay. Les parents, Pierre Montgolfier, étaient fabricants de papier. Ils avaient une papeterie. Depuis le XIVe siècle, la famille Montgolfier fabriquait, avait une papeterie très connue et reconnue à Annonay. À Annonay, parce qu'il y a une petite rivière qui passe là-bas, qui est une eau très pure, qui permettait de faire tourner le moulin, et puis qui permettait de bien nettoyer le tissu et tout ça. Pourquoi ils étaient installés là? Donc ce Pierre Montgolfier, qui était un monsieur très dur au travail, qui se levait de bonne heure, etc., il a eu 16 enfants. Joseph était le 12e enfant et son frère Étienne, dont on parlera aussi, était le 15e. Ils avaient 5 ans de différence. Donc ce Joseph-là qui a fait cette fugue, qui est descendu chercher du travail dans les fermes et tout, bon, ben, les gens s'inquiétaient un petit peu de savoir qui c'était ce gamin. Ils ont vite su qui c'était. Il est retourné manu militari, si je peux dire, dans son collège de jésuites pour continuer ses cours. Enfin, ça n'a jamais été un brillant élève. Par contre, il aimait beaucoup la mécanique, bricoler, etc. Et donc, il s'était même installé à Saint-Étienne pour vendre un peu droguiste. Il vendait des drogues, des produits chimiques. C'était la mode un peu de la chimie. À ce moment-là, tout le monde bricolait un petit peu des poudres de perlimpinpin, on va dire. Et ensuite, il a même... Alors, il regrettait aussi de ne pas avoir fait... Après, il s'est aperçu que de ne pas avoir suivi les cours, de ne pas être cultivé, ce n'était pas très bien. Et à 40 ans, il s'est inscrit à la fac d'Avignon en école de droit. Et donc, il y a la légende qui veut qu'un jour, il ait voulu sécher une chemise et qu'il l'ait mis au-dessus du feu et que cette chemise ait gonflé et qu'elle soit s'envolée, ce qui lui aurait donné l'idée. En fait, lui, il réfute ça et il explique... qu'il était dans son salon, on va dire, et il regardait au mur une affiche qui représentait le siège de Gibraltar par les Espagnols. Et ce siège de Gibraltar a toujours résisté. Ils n'ont pu accéder à Gibraltar ni par la mer, ni par la terre. Et Joseph de Montgolfier se dit il fallait arriver par l'air. Et il voyait de la fumée dans sa cheminée qui montait. Il a dit qu'il suffirait d'emmagasiner cette fumée qui monte dans une enveloppe, et puis on s'élèverait avec ça. Voilà l'idée. C'est l'idée que lui-même a racontée, comment ça lui était venu, cette idée de faire un ballon. Alors, là-dessus, il a fabriqué un parallépipède de toile, de tissu, et qu'il a gonflé avec du papier qu'il a brûlé. Et ce parallépipède de toile est monté effectivement au plafond. Donc, de fil en aiguille, il a construit des ballons plus volumineux, des sacs plus volumineux. Il a essayé, alors, on venait de découvrir l'hydrogène. Joseph de Montgolfier, il avait la connaissance de cet hydrogène, de ce gaz inflammable, comme on l'appelait, qui avait été découvert par Cavendish en 1766. et que ce gaz était très léger. Mais alors, il avait essayé de gonfler avec ce gaz, mais comme le ballon n'était pas assez étanche, le gaz diffusait à travers la paroi du ballon et ça ne marchait pas. Après, comme il voyait les nuages, il a dit, on va mettre la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, ça se condensait et ça ne marchait pas non plus. Et par contre, en faisant brûler de la paille humide avec un mélange de paille et de laine, et là, il avait fait gonfler ses ballons et ça marchait. Alors, il était à côté de la plaque parce qu'il pensait que c'était un phénomène électrostatique plus ce gaz qui était fait avec cette paille et cette laine qui avait des propriétés particulières et que c'est pour ça que ça gonflait et que ça marchait. Il n'avait pas compris que c'était le fait que l'air était chaud et dilaté et que donc sa densité était la moitié de la densité de l'air à température ambiante. Et ça, c'était novembre 1782 et tout l'hiver et printemps 82-83, il a tenu son frère Étienne au courant et ils ont fait ensemble des expériences. Et à chaque fois, le ballon prenait plus de volume. Et arrive le fameux 4 juin 1783, où ils vont faire la première expérience en public à Annonay. Et là, ils ont construit un ballon assez conséquent de volume. Vas-y, voilà. De 35 pieds, donc il suffit de multiplier par 3. Parce que c'est le pied français faisait 30 cm et quelques, donc 3 fois 3, 9, ça faisait 10 mètres de diamètre. Ce ballon, il était fait de pièces qui étaient boutonnées. Alors, c'est ça que j'ai besoin de dire. Donc, ça, c'est étonnant. Il y avait donc des quartiers, et les quartiers étaient boutonnés. Il y avait 1800 boutons et boutonnières. Donc, il fallait le faire. Et là, on ne voit pas très bien parce que normalement, la base aurait été carrée parce que, en fait, ils avaient au sol, là, l'image ne le représente pas, imaginez un carré sur lequel était fixé le ballon et dessous, ils faisaient le feu avec leur mélange mystérieux de paille humide et de laine. Et alors, ils ont mis le feu, ils ont donc gonflé le ballon parce que là, vous verrez l'intérêt de cette technique, c'est que le ballon se gonfle très vite en quelques minutes. Et les hommes qu'ils tenaient, il y avait 8 gars qui tenaient le ballon, qui avaient toutes les peines du monde à retenir le ballon. Ils ont lâché le ballon qui s'est envolé d'une façon extraordinaire. Et alors, ce jour-là, il y avait les députés, en fait, les États du Vivarais qui étaient présents, qui ont été invités à voir le spectacle. Et donc, vu la réussite de l'expérience, Montgolfière a demandé « Faites un procès verbal de cette expérience et faites-la remonter à Paris ». Qu'on ait la primeur de l'invention. Parce que c'était quand même dans le courant, il voulait avoir la primeur. Donc, effectivement, ça monte à Paris. Et le bruit se répand très vite à Paris de cette expérience. Mais à Paris, il y a des savants, des gens qui aussi se penchaient sur le problème. Et donc, on tombe sur ce... Je fais un petit aparté avec M. Barthélemy Faujas de Saint-Fons. Barthélemy Faujas de Saint-Fons, c'est un professeur du muséum. Il est connu surtout comme géologue et vulcanologue. Il a laissé des ouvrages sur la vulcanologie dans le Massif central. Mais il s'est intéressé aux expériences de Montgolfière, mais dans un autre temps, dans un premier temps, d'un monsieur Charles qui était professeur de physique et qui se proposait de construire un ballon, mais lui, il a décidé de le gonfler à ce fameux gaz inflammable avec de l'hydrogène. Et donc, pour pouvoir avoir l'argent pour construire ce ballon, Faujas de Saint-Fons a lancé une souscription. À deux reprises, Faujas de Saint-Fons va lancer des souscriptions, c'est-à-dire demander de l'argent aux gens, moyennant un petit billet qui leur permettrait d'assister au spectacle de décollage. Et donc, c'est comme ça qu'il récupérait l'argent pour construire le ballon. Faujas de Saint-Fons, l'intérêt aussi, c'est qu'il a écrit deux ouvrages dont les bibliophiles sont friands, parce que ce sont deux beaux petits livres, où il raconte quasiment au jour le jour l'aventure de l'aérostation et toutes les expériences qui ont été faites à Paris dans les fins de l'année 1783, début 80, fin des, ça a duré 3 mois, en fait. Voilà. Donc, alors, voilà la première page du tome 1 de ce livre avec l'effigie d'Étienne et Joseph de Montgolfier et puis le programme du bouquin, une petite table des matières. Alors, Donc, comme vous l'avez vu à Paris, très vite, le bruit de cette expérience d'Annonay s'est répandu. Et Jacques Charles, qui était professeur de physique et qui travaillait sur les gaz, justement. C'était son truc, les gaz. Il a d'ailleurs laissé des travaux sur les gaz. Et il a dit, bon, on va construire ce ballon. On en était là. Alors, il a demandé pour ça aux frères Robert. Les frères Robert avaient une société de construction d'appareils de physique. Ils construisaient des appareils de physique pour les laboratoires. Et il leur a demandé de construire le ballon. Ce ballon, il l'a voulu en taffetas, en soie, recouverte d'une gomme, alors gomme élastique, c'est-à-dire de caoutchouc. Ils ont dissous le caoutchouc, puis ils ont enduit d'un vernis de caoutchouc ce ballon de soie pour le rendre étanche. Et ils ont gonflé le ballon avec de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, comment on le fait? Tout le monde a ses vieux souvenirs de chimie, à savoir on prend de la limaille de fer et de l'acide sulfurique, ça s'appelait le vitriol. Donc pour ceux qui voudront faire des ballons à l'hydrogène, vous prenez du vitriol, vous diluez au quart. Et vous faites très attention parce que vous mettez l'eau doucement dans l'acide et il peut y avoir des projections. Et après, vous mettez votre limaille de fer et il se dégage de l'hydrogène. Mais pour gonfler leur ballon, il leur a fallu 4 jours parce que le débit, ça ne va pas. Et puis en plus, il y a un échauffement. On explique, ils avaient un tonneau surmonté d'un tuyau au bout duquel il y avait le ballon. Et donc, ils versaient la limaille de fer et l'acide sulfurique dans le ballon. Ça bouillonnait et ça chauffait aussi. En plus, il y avait avec le gaz, il y avait des gouttelettes d'eau, de tout ce qu'on voulait. Disons que c'était pas facile. Et moyennant quoi, alors, les gens étaient au courant de cette expérience. Donc, tout le monde venait voir. Parce qu'une fois le ballon gonflé, ce ballon, il voulait s'envoler. Donc, il faisait des expériences. Au bout d'une ficelle, il l'a laissé monter un petit peu, il redescendait ça. Et donc, pour être... Donc, voilà le système, vous voyez, le tonneau, le tuyau qui gonfle le ballon... Et puis l'endroit où on met la limaille et le vitriol. Et alors, ils ont été obligés de déplacer ce ballon. Le décollage c'était le Champ de Mars, hein, le 27 août. Et au Champ de Mars, c'est la nuit à 2h du matin, ils ont mis le ballon dans une charrette et ils se sont rendus des places des Victoires, où était l'entreprise des frères Robert, jusqu'au Champ de Mars. Et là, évidemment, pour l'expérience, tous les gens qui avaient souscrit, qui avaient des billets, il y avait plusieurs prix. Plus vous payez cher et plus vous étiez près du décollage. Et donc, le ballon a décollé, vous voyez, il y avait 300 000 personnes, c'est-à-dire la moitié de Paris venait voir cette expérience. Tout le monde était ébahi par ça. Et donc, à 3 heures, donc, à 5 heures, le ballon fut libéré, s'éleva à une telle vitesse en 2 minutes qu'il fut à 1000 mètres d'altitude. Et alors, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'avaient pas prévu de soupape, il n'y avait rien de prévu. Donc, avec l'altitude, le gaz s'est dilaté, surtout que les frères Robert, pour être sûr de leur coup, avaient voulu en mettre une giclée de plus. Donc, et après, il a éclaté le ballon. Et donc, un peu tout, il est retombé. Mais il est retombé assez loin, d'ailleurs. On a les cartes tout à l'heure. On va voir les cartes de tous les déplacements, des trajets qui ont été faits. Et donc, et oui, il est à Gonesse. Il est tombé à Gonesse. Et les paysans, voyant... Cet objet qui tombe du ciel ont pris peur, se sont précipités avec des fourches, ont dépecé le ballon, l'ont accroché à la queue d'un cheval. Enfin, quand ils ont voulu retrouver le ballon, il était complètement dépecé. Donc, il y a même eu un avis pour prévenir les gens. Si vous voyez des choses comme ça, n'ayez pas peur, c'est rien. Voilà. Et donc, il avait fait 5 lieues, 20 km quand même, hein, ce ballon. Voilà. Alors, bon, mais il y avait une compétition entre les frères Montgolfier et puis Jacques Charles et puis les frères Robert. Alors, Montgolfier, c'est Étienne de Montgolfier. Alors, donc, la lettre de le procès-verbal a été reçu par l'Académie et Étienne de Montgolfier monte à Paris pour faire des expériences et faire une démonstration. Et donc, dans un premier temps, alors il est fabricant de papier et... dans le faubourg Saint-Antoine, il y a les établissements Réveillon. Réveillon, ce sont des gens qui fabriquent du papier peint, qui était à la mode à l'époque. Et c'est une entreprise qui se fournit chez Montgolfier. Donc, ils se connaissent. Ils ont un grand jardin. Et c'est là que les ballons vont être fabriqués et essayés dans un premier temps. Donc, le premier ballon, il a une forme très bizarre, comme vous le voyez. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit le ballon et on voit le petit réchaud pour faire brûler la paille. Et ce ballon, et ils vont faire des expériences, mais ça ne va pas être très concluant parce qu'il fait un temps épouvantable. Je peux vous dire que l'été 1783, il a fait un temps épouvantable. Hein. Il a toujours plu. Et alors, la taille, vous voyez, c'était des... Alors, évidemment, l'air chaud, c'est la moitié de l'air à température ambiante. L'hydrogène, c'est 10 fois moins que l'air à la température ambiante. Ça veut dire que le ballon à air chaud, il doit être 10 fois plus gros ou 5 fois plus gros, 5 fois plus gros que le ballon à hydrogène. Ce qui fait des tailles fabuleuses. Là, vous avez un truc qui fait 3 fois 7, 21, 20 mètres de haut sur 12 mètres de large. D'accord ? Et voilà le premier ballon qui a été fait. Et en fait, là, alors c'est, et donc lui, ils ont fait des petites démonstrations, mais il a fait tellement mauvais qu'il n'y a rien eu de très satisfaisant et que le ballon a été détruit par la flotte avant même de pouvoir s'envoler. Par contre, ils avaient rendez-vous avec le roi à Versailles pour une expérience. Et donc, ils ont été obligés de reconstruire un ballon, toujours chez Réveillon. Et ce ballon, donc, il a été transporté à Versailles. Alors, il y a une estrade que vous voyez là. Alors, le principe pour les ballons montgolfières, comment ça marche? Vous avez une estrade avec un trou dans lequel on met le foyer et puis le ballon au-dessus pour le gonfler. Vous allez voir tout à l'heure un petit schéma qui explique comment on fait gonfler une masse comme ça. Parce que quand le ballon n'est pas gonflé, c'est tout par terre, tout froissé et tout. Hein. Alors, cette expérience devant le roi, ils ont accroché un petit panier d'osier qui va contenir un canard, un coq et un mouton. Et ils vont le gonfler donc toujours assez rapidement. Vous m'excuserez, je regarde un petit peu. Et puis, ils vont, donc le roi va se donner la peine de monter sur l'estrade, de bien regarder tout. Il se fait bien expliquer tout ce qui va se passer. Et le ballon s'envole. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Voilà, sous les yeux ébahis de tout. Alors là, on voit bien, c'est le château de Versailles avec là l'estrade octogonale. Et puis le ballon avec son petit truc. Et qui va tomber à Vaucresson. Voilà le petit circuit du ballon. Et on va retrouver, parce qu'une fois que c'est plus alimenté, un ballon à l'air chaud, si vous ne le chauffez pas, il descend. Voilà. Donc là, ils partent avec le coq et le mouton et le canard, mais c'est plus chauffé. Donc le ballon redescend après être monté assez haut. Et on va le retrouver, mais avec les animaux qui sont vivants. Et ça, c'est très important, parce que ça va inciter les gens à être eux-mêmes les voyageurs. Donc, il va y avoir toute une série d'expériences avec Pilate de Rosiers. C'est là que Pilate de Rosiers intervient. Alors, on va en parler de Pilate de Rosiers. C'est lui aussi un type un petit peu curieux. Son père était militaire et après a ouvert une auberge à Metz où il est né. Il était en stage chez un pharmacien pour être pharmacien. Et puis il en a eu marre et avant la dernière année, il est parti pour monter à Paris. Il était recommandé et donc il s'intéressait quand même à la chimie et à la physique. Et il a été nommé intendant du cabinet de physique, chimie et sciences naturelles du comte de Provence, qui était le frère du roi. Donc ça lui donnait des portes d'entrée quand même. Hein. Et il a aussi créé, donc il s'intéressait quand même beaucoup à la physique et à la chimie, il aimait bien faire les expériences, c'est lui qui a créé un musée des techniques. Il a créé un musée des techniques où les gens pouvaient suivre des cours et voir des expériences à Paris. Et ça, c'était en 1781. Voilà. Il crée son musée des techniques. Donc, vous voyez, tous ces gens, ils tournent un petit peu dans le même milieu scientifique à faire des expériences. Il y a Lavoisier, il sera présent à quelques expériences d'ailleurs. Et quand tous ces phénomènes d'expérience d'aéronautique se produisent, lui, il vient là, regardez, et il se propose pour être l'expérimentateur, le pilote des ballons de Montgolfier. Alors, les Montgolfiers construisent cet énorme ballon, vous voyez, qui fait 7 fois 3, 70, alors encore là, 20 mètres de haut, de 20 à 21 mètres de haut sur 15 mètres de large, avec une galerie en osier. Donc les ballons des frères Montgolfier, c'est toujours de la toile enduite intérieure et extérieure avec du papier. Ils sont richement décorés. Vous avez là-bas les signes du zodiaque dans la... Alors, des fleurs de lys, les signes du zodiaque tout autour, les lettres de Louis enlacées, et puis là, des aigles, et puis la galerie. La galerie qui contient la paille pour alimenter le foyer. Le foyer, il n'est pas représenté là. On nous explique que le foyer, c'était une sorte de grille métallique tenue par des chaînes. Et donc, il fallait lancer la paille là-dedans pour que ça brûle et que ça chauffe l'air. Donc, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Le ballon était attaché. Ils ont fait, en fait, du vol captif. Le ballon, il était attaché. Vous voyez, d'abord, vous allez voir tout à l'heure le schéma, comment on gonflait le ballon, comment c'était au départ. Et après, le 15, le 17 et le 19 octobre, ils ont fait des expériences où le ballon montait tous les jours un petit peu plus haut. Alors, avec Pilate du Rosier, et après, le marquis. Il y en a un monsieur dont j'oublie le nom qui est venu aussi, et puis le marquis d'Arlande. Alors voilà comment ça se passe pour gonfler un gros ballon comme ça, si vous avez envie de bricoler ça dans votre jardin. Il faut avoir deux mâts et vous accrochez le sommet de votre ballon avec une ficelle. Comme ça, vous pouvez le tenir, le monter un petit peu, puis quand vous commencez à faire le feu, au fur et à mesure qu'il gonfle, vous le montez, et une fois qu'il est bien gonflé, vous tirez la ficelle et hop, le ballon s'en va. Voilà comment ça se passait. Et donc, pendant là, toute cette période, ces trois jours, ils ont fait des expériences sans lâcher le ballon. Et après, le jour le plus important pour l'histoire de l'aérostation, de l'aéronautique, de tout ce que vous voulez, c'est le 21 novembre 1783. Parce que c'est le premier voyage aérien, c'est la première fois que des hommes vont se balader dans l'air. Et ils ont parti. Alors, là aussi, toujours le problème, c'était chez Réveillon au départ les expériences. Mais les gens s'attroupaient, etc. Donc, le comte de Provence lui a proposé à Pilate de Rosier et au Montgolfier, venez donc dans mon château, vous décollerez de là, vous serez plus tranquille. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils sont partis du château de la Muette, qui est près du bois de Boulogne, là-bas. Enfin, maintenant, ce château-là n'existe plus, mais donc dans les jardins. Et ils ont décollé de cet endroit. Ils vont atterrir à la Butte aux Cailles, c'est 9 km plus loin, en survolant tout Paris, en longeant un petit peu la Seine. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que... Alors, on va continuer l'histoire, mais voilà le schéma du trajet. Ils sont partis là, de la Muette. Un moment, il n'y avait pas la Tour Eiffel à l'époque, bien sûr. Un moment, ils longent la Seine. Bon, ils voient les Invalides, ça existait. L'école militaire aussi, hein, ils passent entre les deux. Alors, comment ce vol, comment ça se passe? Au départ, c'est un petit peu... Il y a le marquis d'Arlande, qui est le passager avec Pilate de Rosier, a raconté, dans le livre quand vous lisez le livre de Faujage de Saint-Fond, c'est le marquis d'Arlande qui raconte son voyage. Et alors, le pauvre, il n'arrête pas de se faire engueuler. Parce que Pilate de Rosier, mais nous ne montons guère. Alors, qu'est-ce que vous faites? Travailler. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il mette la paille dans le feu, parce que l'autre, il regardait ce qui se passait et tout ça, et il oubliait d'alimenter le foyer, donc le ballon descendait. Mais après, au fur et à mesure, imaginez cette paille. Il y a des petits brindilles enflammées qui montent et tout ça. Donc le marquis d'Arlande, il regardait, oh là, mais il y avait des trous partout qui se faisaient et tout ça. Il s'est dit, il va falloir qu'on descende un jour. Parce qu'au pilote d'Arrosier, il n'avait pas tellement envie de descendre, lui. Mais l'autre a bien compris que si on continuait, il entendait des bruits en plus. Il a eu envie de se poser. Donc ils se sont posés, un petit peu en catastrophe d'ailleurs, parce que le problème d'un ballon à air chaud, chauffé avec de la paille. C'est quand le ballon se pose par terre, vous avez la paille enflammée, et qu'est-ce qui va se passer? Le ballon en papier, pouc, il prend feu. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Là, il y avait des gens qui ont un peu étouffé ça. Bon, mais enfin, c'était une réussite. Tout le monde était en extase devant ça. Et voilà. Mais, attention, Charles n'avait pas dit son dernier mot, parce que 10 jours plus tard, le 1er décembre, mais c'est aux Tuileries, en fait, c'est pas au Champ de Mars. Alors, Charles et Robert viennent avec un nouveau ballon, énorme, enfin, petit par rapport au ballon des Montgolfières, mais beaucoup plus gros que l'autre, un ballon jaune et rouge gonflé à l'hydrogène. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Charles a conçu un ballon qui va durer tout le 19e siècle. Ce ballon, il avait tout. Il était fait comme le ballon qui aurait été fabriqué en 1780, en 1880, ou même pour la Gordon Bennett de 1906. Hein. À savoir un filet qui recouvre le sommet du ballon et qui, par des cordes, vient, alors là, il n'y a pas, mais au cercle, plus la nacelle, plus le manchon pour gonfler le ballon et pour aussi éventuellement laisser un peu. Oui, plus la soupape, il y avait aussi. Plus il emmène le lest pour monter quand ça commence à descendre, parce que le gaz hydrogène, c'est très volatile et ça passe à travers tout et ça sort partout. Plus un baromètre pour voir l'altitude. Et donc, les voilà partis. Et eux, ils vont faire 35 km. Et ils vont se poser à Nestlé, ça s'appelle. Alors, regardez comme c'était élégant, ce vaisseau aérien. Et donc là, vous avez Robert qui vient de descendre. De Chartres, hein, le marquis de Chartres les a suivis exactement, à cheval, pas en 4x4. Et donc, il les a accueillis et Charles leur a dit « Attendez, je repars ». Et hop, vu qu'il a perdu un passager, le ballon s'est allégé et lui, il est remonté. Et alors, il leur a dit « J'ai vu une chose que personne encore n'a vue. J'ai vu deux couchers de soleil le même soir. » Puisque quand il est arrivé, le soleil était couché. Et quand il a redécollé, comme il est monté à 3000 mètres d'altitude, il a revu le soleil. Et après, il est redescendu un petit peu plus loin. Voilà les grandes expériences, en gros. Donc là, on ramène le chat dans un char, le ballon et la nacelle sur Paris. Oui, voilà les. Alors, je ne sais pas si on les voit, non, c'est trop petit. Mais il y a tous les trajets. Vous avez tous les trajets qui ont été effectués dans ces périodes-là. À savoir, ici, vous avez le ballon avec le canard et la poule. Ici, vous avez le voyage de la muette à la butte aux Cailles. Donc, la muette, c'est Boulogne. La butte aux Cailles, c'est près de la place d'Italie de maintenant. Et puis là. Alors, le voyage de Charles, c'est ce grand voyage jusque-là, plus après Charles tout seul, ce petit voyage-là. Voilà. Donc, en fait, les jeux sont faits un petit peu et maintenant, tout le monde va s'emballer pour ses voyages. Et dans toutes les villes de France, tout le monde va construire son ballon. Un des plus célèbres, c'est le ballon de Flessel à Lyon. Mais ça serait un peu fastidieux de vous raconter tout ça. Mais il y a quand même un autre épisode de cette aventure qui est fabuleux, c'est la première traversée de la Manche. Et là, on va retrouver en compétition un personnage qui s'appelle Jean-Pierre Blanchard. Jean-Pierre Blanchard, alors un roturier, on va dire, il est, parce que c'est quand même plutôt de la noblesse, tous ces gens qui font ces expériences. Mais là, lui, son père était tourneur. Et donc, très vite, il a eu le goût de la mécanique et du bricolage. Il avait inventé une voiture à pédales. Il avait inventé un système hydraulique pour alimenter Château-Gaillard, puisqu'il n'était pas loin, pour l'eau. Et il avait même inventé un vaisseau aérien. On doit l'avoir. Voilà. En 1782, il était obsédé par le vol, lui aussi. Et donc, il avait inventé une espèce de machine utopique, ça ne marchera pas. Mais vous voyez, il y avait des jeux de poulies et de courroies, et en battant des bras, ça agitait des ailes, et il était censé. Il en a construit 3 machines comme ça, qui n'ont jamais marché, bien sûr. Mais quand il a su qu'on volait avec des ballons, imaginez qu'il a été un petit peu accro du truc. Il a fait une superbe démonstration le 2 mars 1984. Pour la petite histoire, soi-disant dans l'assistance, il y avait une petite fille de 7 ans qui avait regardé ça et qui a dit « Moi, je voudrais me marier avec ce monsieur ». Et il paraît qu'en 1805, après, c'est elle qui s'est mariée. Alors, je ne sais pas si c'est du roman, ça. C'est Madame Blanchard qui va mourir après en ballon aussi. Hein, voilà. Mais donc, ce Blanchard, après, il fait quelques vols à Rouen. Et puis, il va en Angleterre. Il fait un ou deux vols en Angleterre. Et puis, il dit, moi, je vais traverser la Manche. Là, ça va en jeter un petit peu. Hein, parce que ce monsieur, il voulait vivre de ses démonstrations. Et tout. Et il y avait aussi Rosier, Pilate de Rosier, lui aussi, voulait traverser la Manche. Alors, le problème, c'est qu'il y en a un qui a décidé de traverser la Manche de Douvres à Calais, alors que Pilate de Rosier s'était mis dans la tête de traverser la Manche de Calais à Douvres. Or, j'ai cherché le bouquin sur les pilot charts, mais je ne l'ai pas trouvé, mais ça aurait dû nous montrer ces cartes de pilot charts que, en fait, les vents dominants, c'est toujours de l'Angleterre vers la France. Il n'y a jamais de vent, ou très rarement, qui vont de Calais vers Douvres. Ce qui va faire que ça va mal se terminer, l'affaire, parce que Charles, avec un Américain qui va être son mécène, mais qui va être aussi son passager, et qui s'appelle le docteur Jeffrey, ils vont traverser la Manche, ils vont décoller le 7 janvier hein, 1785. Donc, ballon gonflé à l'hydrogène, il y a aussi la compétition air chaud-hydrogène, mais on va voir aussi, ça se complique. Mais là, un ballon à hydrogène. Alors, Blanchard aussi, il était têtu, il était persuadé qu'avec des rames, il arriverait à diriger son ballon. Tout le monde lui disait que ce n'était pas vrai. Quand il faisait un vol, il disait « Regardez, j'ai dirigé mon ballon ». En fait, les spectateurs et les savants qui le regardaient disaient « Non, c'est le vent qui l'a emmené, il n'a rien fait du tout ». Toujours est-il qu'il s'embarque avec des rames et tout le système pour traverser la Manche, avec donc le lest, avec des bouquins, des bouteilles de vin, de la nourriture et tout, plein de matériel, et si bien que le ballon ne voulait pas décoller. Donc ils ont été obligés de se défaire d'une grande partie du lest. Ils partent avec 3 sacs de lest et ils y vont. À tiers de chemin, le ballon commence à descendre. Ils se débarrassent de leur lest. Et en fait, juste tout au long du voyage, ils vont être obligés de se débarrasser de tout ce qu'ils avaient. Ils sont arrivés presque tout nus. Même Geoffrey a dit, écoutez, je suis prêt à me sacrifier, à me jeter à l'eau pour que vous arriviez et tout. Et puis par miracle, à proximité de la côte française, est-ce que il a suffi qu'il y ait un peu de soleil qui chauffe un peu plus, le ballon s'est dilaté. Le ballon est remonté et ils ont atterri sur les côtes françaises. Ils avaient donc réussi la traversée de la Manche, les premiers à avoir réussi la traversée de la Manche par la voie aérienne. Et le pilote du Rosier, lui, qui avait reçu 42 000 livres du roi pour faire son expérience, puis qui maintenant il trouvait que ça présentait aucun intérêt, mais il était quand même un petit peu obligé de le faire, parce que à Paris, on n'était pas content de lui. Et il attend, il passe une grande partie du début de l'année 1783, de 84, 85 même maintenant, 85, à attendre des vents favorables. Et puis en désespoir de cause, en fait, au mois de juin 1785, le 15, il s'apprête à partir. Alors, avec un appareil tout à fait particulier de son invention. Donc, vous avez compris que le ballon à air chaud, pour faire du chemin, il faut emmener beaucoup de paille. Donc, c'est un handicap, vous êtes limité parce que vous ne pouvez pas emmener indéfiniment de paille. Avec le ballon à hydrogène, pour faire du chemin, ce n'est plus une question. Il faut emmener du lest parce que votre ballon, en permanence, il va perdre de l'hydrogène et il va avoir tendance à descendre. Seulement, vous ne pouvez pas emmener non plus infiniment de lest. Alors lui, il avait imaginé un ballon en deux parties, une partie gonflée à l'hydrogène et une partie à l'air chaud. Comme ça, il avait déjà une grande partie du poids qui était soutenue par l'hydrogène et il lui suffisait, pour varier en altitude, de chauffer ou de laisser refroidir sa colonne, son ballon montgolfière. Ça s'appelait un aéro-montgolfier et maintenant on appelle ça une rosière et on va voir parce que c'est revenu d'actualité. Et donc, malheureusement, il a décollé, il s'est un peu écarté au-dessus de la mer, les vents l'ont ramené, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il, son invention était un peu explosive, puisqu'il était en train de faire du feu en dessous avec de la paille, et au-dessous, il avait un ballon d'hydrogène. Toujours est-il que tout le truc est tombé sur la côte, et ils sont morts. Son camarade, monsieur Romain, qui l'avait aidé à construire le ballon, lui. Le ballon, ça faisait 6 mois qu'il était dans des granges à Calais avec l'humidité. Les rats avaient commencé à le manger un petit peu. Donc, ils sont partis avec du matériel en mauvais état. Il est parti un peu à contre-cœur, même un petit peu forcé par la pression publique. Et voilà, c'était la fin de notre premier aéronaute, Pilâtre de Rosier, Jean-François Pilâtre de Rosier. Donc, voilà un petit peu tout ce qui s'est... Alors là, je vous montre tous ces... Alors, donc, c'est un salon du livre. Donc, nous, on est deux rats de bibliothèque. Donc, il y a beaucoup de livres qui nous racontent tout ça. Et en gros, en fait, dans tous les livres, on vous raconte la même chose. Parce qu'il y en a un qui a écrit la chose. En plus, il y a des reports, enfin, des interviews, des récits des gens qui ont fait le voyage, qui ont fait l'action. Et c'est ces récits qu'on reprend dans tous les livres. Donc, en gros, par contre, il y a un petit livre très sympa qu'on ne trouve pas trop souvent. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a une préface de 50 pages de Gérard de Nerval qui lui donne son intérêt, qui raconte l'histoire des ballons, qui est de 1851. Il y en a un autre. Alors, là, c'est le fameux, mais on pourrait y passer la soirée, toute la soirée, toute la nuit, à parler du géant de Nadar, cet énorme ballon qui était fait pour gagner de l'argent, pour pouvoir trouver la solution du transport aérien par le plus lourd que l'air. Après, on a des petits livres comme ça qui sont très jolis. Gaston Tissandy, qui était un aéronaute, qui a fait créer une revue qui s'appelle La Nature, l'ancêtre de la recherche. Histoire de mes ascensions, donc c'est un petit livre. Pardon, voilà. Donc, qui raconte. Après, alors là, F. Marion. F. Marion, c'est Flammarion, qui a écrit une histoire des ballons aussi. Flammarion qui a fait un voyage entre Paris et Angoulême, dont on peut lire le récit dans un dernier picton, des derniers pictons, c'est bien ça? Et ensuite, alors voilà un petit livre, c'est joli, mais alors vous voyez là l'intérêt du livre. Le livre, il est de Circos et de Palier, d'accord? Deux illustres inconnus. Par contre, il y a une préface de Nadar et les illustrations sont du Tissandier. Alors donc, il n'y a même pas le nom des auteurs, il y a juste le nom du gars qui a fait la préface parce qu'il est connu et du nom qui a fait les illustrations parce qu'il est connu. Puis le livre qui est joli. Voilà, c'est fini. Et puis donc, alors, vous avez compris que ces ballons, ben, on a fait des vols scientifiques pour en altitude, voir les températures, faire des prélèvements d'air, etc. Mais en fait, ça n'apportait pas grand-chose. Ce ballon, il aurait fallu le diriger. Et pour trouver le système, et faire des ballons dirigeables. Et là, ça, c'est Pierre-Yves qui va nous raconter cet épisode du plus léger que l'air, à savoir le ballon dirigeable. Voilà.
Oui. Non, je vais le faire défiler. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, je prends la suite avec une petite histoire des ballons dirigeables, ou de façon plus courte, les dirigeables en général. Car très rapidement, on s'aperçoit évidemment que les ballons sont tributaires des courants aériens. Donc on va chercher très vite à essayer de trouver un moyen de dévier des courants aériens. Donc pour mémoire, premier vol humain, hein, Pilâtre de Rosiers, Marquis d'Arlande, 21 novembre 1783. Et après, ça va très vite. Donc on retrouve Jean-Pierre Blanchard, donc le premier aéronaute à avoir traversé la Manche, qui essayait un peu tout, qui sera aussi le premier aéronaute à voler aux États-Unis, et ça sera aussi le premier à essayer de diriger un ballon en l'air, le 2 mars 1784. Donc il a muni son ballon d'une sorte de petit gouvernail, il a même mis une sorte de petit parachute, au cas où ça se passe mal, et puis il a mis des rames, et il essaye de faire dévier le ballon avec ses rames. Bon, évidemment, ça ne marche pas bien du tout, et en désespoir, il jette les rames par-dessus bord. L'étape suivante, c'est le 12 juin 1784, où l'Académie de Dijon a financé un ballon un peu particulier, qui est équipé de sortes de gouvernails. Et avec ce ballon, Guiton de Morvaux et son équipage vont réussir quelques déviations dans le vent. Ils vont réussir à faire tourner le ballon sur lui-même et, soi-disant, à dévier le ballon des courants aériens principaux. Donc tout ça reste un peu sujet à caution. Voilà pour les premières tentatives. Toujours en 1784, les frères Robert, encore eux, c'est ceux qui ont aidé Charles à construire leur ballon, le premier ballon à gaz, vont réaliser le premier ballon ayant une forme allongée, dans le but clairement d'essayer de remonter le vent. Là, encore une fois, ils vont essayer de diriger ce ballon avec des moyens rudimentaires. Malheureusement, là, encore une fois, ce qui manque, c'est la puissance, en fait. Et la puissance humaine n'est pas suffisante et ils ne réussiront pas à diriger ce ballon. Malgré ça, déjà à l'époque, ils détiennent un petit record. Ils vont réussir à tenir l'air plus de 6 heures, ce qui est vraiment énorme, déjà à l'époque, alors qu'on vole depuis quelques mois seulement. En 1785, arrive un personnage un peu particulier, qui est Jean-Baptiste Marie Meunier, qui va non pas réaliser un ballon, qui était très ambitieux, mais concevoir, dans ses moindres détails, le premier ballon dirigeable abouti, on va dire. Donc ce ballon a déjà une forme allongée, il a déjà une carène qui participe à la rigidité de l'enveloppe, il a déjà des moyens de direction, et là encore une fois le problème de ce ballon, qui devait être mu par des hélices qui étaient entraînées par la force humaine, c'est évidemment la puissance disponible à bord, et ce ballon dirigeable très ambitieux ne sera en fait jamais construit. Il avait estimé que pour arriver à remonter un vent moyen, il aurait fallu 80 hommes d'équipage pour fournir la puissance motrice, sachant qu'un homme en bonne forme, on va dire, développe à peu près un quart de cheval. En fait, le premier ballon dirigeable réellement efficace apparaît en 1852. C'est Henri Giffard qui va concevoir un ballon très très moderne, qui a déjà une forme allongée, qui dispose déjà de ce qu'on appelle une quille, qui est reliée au ballon par des suspentes et qui permet à l'enveloppe de garder sa forme. Et Henri Giffard, qui reculait devant rien, a conçu une machine à vapeur qui développait seulement 3 chevaux et qui pesait quand même 150 kg, ce qui va lui permettre de faire quelques déviations par rapport au vent moyen. Mais ces 3 chevaux ne suffiront pas, en fait, à pouvoir remonter le vent. Donc cette première tentative, timide, sera au final un échec. Donc là, encore une fois, il faut souligner qu'on avait une machine à vapeur, hein, donc des flammes, sous une enveloppe gonflée à l'hydrogène. Donc c'était quand même quelque chose d'assez osé. Très peu de temps après, interviennent les frères Tissandier, qui étaient des aéronautes assez célèbres, qui avaient fait des expériences scientifiques en ballon, et qui, eux, préfèrent choisir l'énergie électrique pour des questions de sécurité dans un ballon allongé. Donc, ils réussiront à faire 2 ascensions avec ce ballon, le 8 octobre 1883 et le 26 septembre 1884. Là, encore une fois, le ballon est capable de sortir un peu des courants aériens, mais là, encore une fois, la puissance est trop limitée et n'arrive pas à remonter au vent. En fait, on peut considérer que le premier vrai dirigeable est celui de Charles Renard et d'Arthur Krebs, qui volent le 9 août 1884. Donc ce ballon dirigeable, qui s'appelle La France, sera le premier dirigeable à réaliser un circuit fermé. Il partira de Meudon, où étaient établis les ateliers aérostatiques, où étaient construits les ballons de l'État, et ira tourner en dessus de Villacoublay et reviendra à son point de départ. Donc c'est la première fois qu'un dirigeable réussit à remonter le vent, à faire un circuit complet et à revenir à son point de départ. Donc ce ballon qui fait 1864 m3 de volume est lui aussi équipé d'un moteur électrique, encore une fois dans un souci de sécurité puisque le ballon encore est gonflé à l'hydrogène. Et ce moteur qui développe 8 chevaux seulement sera suffisant pour pouvoir diriger ce dirigeable qui faisait quand même 50 mètres de diamètre, ce qui est quand même relativement important. En fait, ce dirigeable, la France, réussira au total à faire 7 vols entre 1884 et 1885, donc 5 vols avec retour au point de départ, ce qui est vraiment un exploit pour l'époque. Dans l'histoire des dirigeables, intervient un personnage pittoresque, on va dire, je ne sais pas comment le qualifier, qui est Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont était brésilien, ses parents étaient producteurs de café, richissimes, et lui, très tôt, s'intéresse à la mécanique. Et lors d'un voyage en France, à Paris, il découvre l'aérostation, il fait un premier vol en ballon par un aéronaute, avec un aéronaute célèbre de l'époque, qui s'appelait La Chambre, et il attrape le virus de l'aérostation. Donc très rapidement, il va faire construire par les ateliers Machuron et La Chambre à Paris une série de ballons de petite taille qui étaient tous construits avec de la soie du Japon. Car Santos Dumont voulait des ballons les plus légers possibles. Lui-même pesait que 45 kilos. Donc aujourd'hui encore, les ballons qu'a fait construire Santos Dumont restent les plus petits qui aient jamais été construits. Et puis très rapidement, il va s'intéresser au moyen de diriger ces ballons et faire construire parmi les premiers dirigeables réellement efficaces aussi en France et au monde. Au total, il va construire une dizaine de dirigeables qui auront des formes un peu variées, avec lesquelles il va avoir des aventures un peu rocambolesques, comme d'aller rejoindre son appartement en ballon et rentrer chez lui par un balcon. Et puis surtout, il reste dans l'histoire des ballons dirigeables comme étant le premier à avoir remporté le prix Deutsch de la Meurthe, qui consistait à faire un parcours partant de Saint-Cloud faire le tour de la tour Eiffel et revenir au point de départ en moins de 30 minutes. Et donc, il va réaliser cet exploit le 19 octobre 1901 et remporter ce prix qui, à l'époque, représentait plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui et rentrer ainsi dans l'histoire des dirigeables. Pour la petite histoire, l'un de ses derniers dirigeables, le numéro 16, va lui servir en fait à réaliser ses premiers travaux sur le plus lourd que l'air, puisqu'après, Santos Dumont s'illustrera comme ayant été le premier à avoir volé de façon homologuée en Europe. Et pour tester son premier appareil plus lourd que l'air, son premier avion, il va l'accrocher pour l'alléger sous ce dirigeable. Et son avion portera d'ailleurs le numéro de 16 bis en mémoire de ce dirigeable numéro 16 qui lui aura servi à faire ses premières expériences. Le 2 juillet 1900 est une date importante, car ce jour-là décolle le premier dirigeable rigide. Jusqu'à présent, tous les dirigeables sont des dirigeables dits souples ou semi-rigides, c'est-à-dire que l'enveloppe maintient sa forme par surpression du gaz à l'intérieur de l'enveloppe, comme un ballon de baudruche avec une petite surpression. Cette surpression, elle est maintenue par un petit ballonnet d'air qui est gonflé en permanence. Le problème, c'est que quand vous voulez augmenter la taille du dirigeable pour avoir un dirigeable qui emporte plus de charges, plus de passagers, cette forme souple n'est plus efficace. On a beaucoup de mal à maintenir l'enveloppe, garder la forme de l'enveloppe, et ça limite la taille du dirigeable. Et le premier à avoir l'idée de faire un dirigeable rigide, c'est-à-dire un dirigeable où on a une carcasse métallique dans laquelle on va retrouver des ballonnets, différents ballonnets gonflés à l'hydrogène, c'est le comte Zeppelin. Alors pour la petite histoire, le comte Zeppelin, c'est un cavalier prussien qui a passé toute sa carrière dans la cavalerie prussienne, qui a pris sa retraite. Lorsqu'il est à la retraite, il doit s'ennuyer un petit peu. Donc il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Et brutalement, à l'âge de 60 ans, il décide de construire le premier dirigeable rigide, ce qui est quand même très osé. Donc ce premier dirigeable, le LZ1, fait quand même 128 mètres de long, c'est quand même pas négligeable, et il est construit sur le lac de Constance. Et pour pouvoir construire ce dirigeable, qui est vraiment un dirigeable de très grande taille, ils vont construire une sorte de radeau avec un hangar dessus, et le dirigeable sera construit sur ce radeau. Alors pourquoi un radeau sur l'eau? C'était simplement pour pouvoir, au moment de la sortie du dirigeable, de toujours être face au vent, quelle que soit la direction du vent. Donc ce dirigeable, qui décolle le 2 juillet 1900, est vraiment révolutionnaire. Il fait 128 mètres de long, il fait déjà 11 mètres de diamètre, ce qui n'est pas négligeable, et 11 300 mètres cubes en volume, ce qui est un record absolu pour l'époque. Et pourtant, la puissance motrice est seulement de 2 fois 14 chevaux, donc une puissance ridicule. Malgré ça, ce dirigeable sera un grand succès. Le problème, c'est que le comte Zeppelin s'est ruiné dans cette aventure. Et après quelques expériences du LZ1, il est obligé d'arrêter tous ses développements. Et grâce à des souscriptions qui seront lancées en Allemagne, il va pouvoir continuer à financer ses travaux et à créer la fameuse firme Zeppelin qui produira tant de dirigeables. Nous y reviendrons. Très rapidement, en fait, ces dirigeables vont être utilisés commercialement. Et la première compagnie aérienne au monde, qui s'appelle la Delag, est créée le 19 novembre 1909. Et cette compagnie n'utilise que des dirigeables, tous des Zeppelin. Parmi les dirigeables les plus célèbres de cette compagnie figure le 10e Zeppelin déjà construit, qui est le Schwaben. Ici, vous avez une petite vue de l'intérieur d'un des dirigeables de cette compagnie, qui vous montre un peu le luxe de la construction. L'intérieur était tout en acajou. Et cette compagnie desservait des lignes régulières en Allemagne, et ce jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En fait, entre 1910 et la Première Guerre mondiale, cette compagnie va transporter 34 000 passagers au cours de 1 500 vols, ce qui représente plus de 170 000 km parcourus, ce qui est quand même énorme pour l'époque. Il faut quand même imaginer que les premiers avions rentrent simplement en opération à cette époque-là, et que rares sont les avions qui emportent des passagers. Et déjà, la Delag a un service régulier de vol sur dirigeable. En fait, la plupart des dirigeables de la DELAC seront perdus dans, dans divers accidents, mais jamais aucun passager ne sera blessé, ce qui est quand même tout à fait remarquable pour l'époque. Donc là, je m'éloigne un peu du sujet qui est le voyage aérien, la thématique de ce soir, juste pour, en une planche, vous parler de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, très rapidement, les dirigeables se retrouvent en concurrence avec les avions et une polémique éclate pour savoir quelles sont des deux armes celles qu'il va falloir financer. En fait, l'avion, évidemment, va rapidement prendre la prédominance du ciel, si je puis dire, mais malgré ça, les dirigeables seront utilisés en grande quantité. Les Allemands disposeront au total d'une centaine de dirigeables, la marine allemande en particulier, qui utilisera ces dirigeables pour aller bombarder l'Angleterre. Ces raids, qui n'ont pas été très efficaces, auront quand même un impact psychologique assez fort sur la population anglaise. Les Français ne sont pas en reste, puisqu'il y aura 37 dirigeables construits qui serviront principalement à l'escorte de convois maritimes et qui permettront à la marine française d'éviter d'être attaquée par les sous-marins allemands. Car chaque fois qu'un dirigeable accompagnait une force maritime, les sous-marins ne se montraient pas, en fait. L'expérience a montré qu'ils avaient une efficacité indirecte très élevée. Et le record revient en fait à la Grande-Bretagne, qui construira plus d'une centaine de dirigeables. En fait, la Première Guerre mondiale va surtout permettre de faire avancer la technologie des dirigeables. Les volumes vont tripler. À la fin de la Première Guerre mondiale, on est déjà avec des volumes de 60 000 m3, ce qui est énorme. Les vitesses vont atteindre 120 km à l'heure. Quant à la puissance, elle va tripler à peu près en 4 ans. Et surtout, la métallurgie va faire de très gros progrès. Et le duralumin, qui est un aluminium aéronautique, sera utilisé pour la première fois dans la construction des dirigeables rigides. De la même façon, ces vols de dirigeables, qui duraient plusieurs heures, vont permettre de développer la météorologie, la prévision. Quand les dirigeables allemands décollaient d'Allemagne pour aller bombarder l'Angleterre, ils avaient besoin déjà à l'époque de prévisions météorologiques précises pour savoir évidemment quel vent contraire ils allaient rencontrer et quel temps ils allaient rencontrer en dessus de l'Angleterre. Voilà, juste cette petite aparté pour parler un peu de ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et arrive ce qu'on peut appeler l'âge d'or des dirigeables, qui sera l'entre-deux-guerres. Donc cet âge d'or va être illustré par une série d'expéditions polaires, la première ayant lieu en mai 1926. En fait, du 11 au 14 mai 1926, va avoir lieu le premier survol du pôle Nord par le dirigeable Norge, construit par un Italien qui s'appelle Umberto Nobile, qui est un ingénieur aéronautique. Et Umberto Nobile va demander à Amundsen de l'aider à préparer sa mission. Et Roald Amundsen, qui était un grand explorateur à l'époque, déjà très connu, va accompagner Nobile pour cette expédition. Donc ce premier dirigeable va décoller de la baie du Spitzberg et il va survoler le pôle Nord le 12 mai 1926 à 1h21 temps du méridien de Greenwich. Là, les conditions au niveau du pôle ne sont pas bonnes et le dirigeable ne pourra pas se poser. Malgré tout, l'équipage va lancer des drapeaux qui vont venir se planter sur la banquise. Donc il y aura un drapeau suédois, un drapeau italien et un drapeau norvégien. Et au final, après 68 heures de vol, le dirigeable va se poser en Alaska, à Teller, après avoir parcouru 5500 km au total, non sans quelques avaries, car lors du parcours, le dirigeable se charge de glace, entre autres sur les hélices, et cette glace va venir endommager l'enveloppe, projetée par les hélices, va venir endommager l'enveloppe. Malgré tout, c'est un succès total qui fera la renommée d'Umberto Nobile, en fait. Donc ce premier dirigeable polaire faisait 19 000 mètres cubes, 80 mètres de long, et n'avait finalement qu'une puissance assez limitée de 3 fois 260 chevaux. Donc après ce vol, en fait, les relations entre Umberto Nobile et Roald Amundsen vont se dégrader pour des questions de publicité, dirons-nous. Chacun revendique la primeur de ce vol, et Nobilé et Amundsen vont se brouiller. 2 ans après, Umberto Nobilé décide de récidiver, et cette fois-ci de se poser au pôle. Il va construire un nouveau dirigeable qui s'appellera l'Italia, parce que cette fois-ci, il est entièrement financé par le gouvernement italien. Et ce dirigeable est en tout point identique au premier, le Norge. Il a quelques petites modifications. L'enveloppe a été renforcée, justement, pour éviter l'endommagement lors des projections de glace. Et ce deuxième dirigeable transpolaire décolle le 23 mai 1928 et atteint le pôle Nord le 24 mai à 0h20. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, une tempête se lève, le vent se lève, une tempête de neige et de glace arrive et le dirigeable s'alourdit. Le 25 mai, après avoir erré dans la tempête, le dirigeable, trop lourd, surchargé de glace, heurte la banquise et lors du heurt, un homme est tué, projeté à terre et tué. La nacelle du dirigeable se détache et l'enveloppe va repartir avec 7 hommes d'équipage. Jamais on ne retrouvera ni l'enveloppe, ni les hommes. Quand reste au sol, avec des débris de la nacelle, Umberto Nobilé et 8 de ses compagnons. Leur seul moyen de survie, c'est une tente qu'ils peindront en rouge, qui donnera naissance à toute une légende, on appellera ça la tente rouge, et à une radio. Et ils vont rester sur la banquise qui dérive pendant 7 semaines. Pendant ce temps-là, le gouvernement italien ne fait rien parce que Umberto Nobilé a quelques divergences de vue avec le gouvernement fasciste. Donc les Italiens qui ne sont pas loin, qui ont un navire dans la baie du Roi, ne font rien. Et ce sont les Soviétiques qui vont dépêcher un brise-glace, le Krasin, le plus puissant brise-glace de l'époque, pour partir au secours des survivants. Et ce sont les Soviétiques, au final, qui sauveront le reste de l'équipage. Et pour la petite histoire, Roald Amundsen, qui s'était pourtant brouillé avec Nobilé, décide de partir à la recherche des survivants et associer un équipage français en hydravion, avec un hydravion LATAM 47, va partir pour la baie du Roi. Et lors du transfert, l'hydravion disparaîtra et on ne retrouvera jamais l'équipage de cet hydravion et Amundsen disparaîtra avec ce LATAM 47. Aujourd'hui, on peut voir des restes de cet hydravion au musée d'hydraviation de Biscarrosse, si vous avez l'occasion. Il reste un des flotteurs et des morceaux de la coque. Voilà. Donc une histoire assez tragique. Arrive une autre, ce que j'ai appelé l'ère des géants, une autre époque, je pense qu'on ne reverra jamais, qui commence vraiment avec un nouveau Zeppelin, qui est le LZ-127, le Graf Zeppelin, qui fait sa première sortie le 18 septembre 1928. Donc ce Zeppelin, c'est vraiment l'aboutissement de la technologie du dirigeable rigide. Hein, c'est quand le chiffre montre combien il y a de Zeppelins qui ont déjà été construits, c'est le 127e. Hein. C'est vraiment un monstre. Il fait 236 mètres de long, hein, plus de 2 terrains de foot. Il fait 30 mètres de diamètre et son volume, ce qui est un record absolu à l'époque, fait plus de 105 000 mètres cubes, un monstre. Ici, vous avez une petite idée de la taille du dirigeable. La nacelle avant, qui est ici, vous donne une idée de la taille de ce dirigeable géant. Il est équipé de 5 moteurs diesel. Sa vitesse de croisière est de 110 km à l'heure. Et avec le plein d'essence, il peut parcourir 10 000 km d'autonomie, ce qui est vraiment énorme. Il faut 44 hommes pour diriger ce dirigeable, à la fois le diriger, assurer le fonctionnement des moteurs, parce que les moteurs sont révisés en vol. On peut arrêter un moteur, le réparer complètement, le remettre en état de marche en vol. Les hommes d'équipage n'ont pas beaucoup de confort. Ils dorment dans des coursives le long de la carlingue, dans des hamacs, dans le bruit, dans le vent, dans le froid. Par contre, les 20 passagers, eux, voyagent dans un grand luxe. Ils ont un salon, ils ont un fumoir, ils ont des cabines individuelles, ils ont des stewards qui viennent les servir à table, etc. Donc ce dirigeable sera vraiment un dirigeable qui connaîtra une très grande longévité et qui sera vraiment un succès total. Parmi les exploits de ce dirigeable, le premier, c'est le premier vol transcontinental. En fait, un vol qui va aller de Friedrichshafen, sur le bord du lac de Constance en Allemagne, jusqu'à Lakehurst, au New Jersey. Un premier vol qui a lieu du 11 au 15 octobre 1928. Le deuxième exploit de ce dirigeable, c'est le premier tour du monde, du 8 au 29 août 1929, en quatre étapes seulement. En fait, alors là, on ne le voit pas très bien, le dirigeable va décoller de Lakehurst aux États-Unis, va aller se poser à Friedrichshafen en Allemagne, il va aller ensuite à Tokyo, il va revenir à Los Angeles et se reposer à Lakehurst. Donc, lors de ce vol, c'est la première traversée du Pacifique aussi qui sera accomplie par un engin volant. Au total, ce vol autour du monde représentera plus de 300 heures de vol. Dernier exploit de ce dirigeable, 1931. 1931, c'est l'année polaire. Et du 28 au 30 juillet, le dirigeable va survoler les régions arctiques et parcourir 13 300 km au total. Il va même se poser sur la banquise pour être ravitaillé par le brise-glace soviétique Krasin qui avait servi à sauver l'équipage de Nobilé. Et au total, en 8 ans d'exploitation, le dirigeable sera arrêté en 1937, il va réaliser 144 traversées transatlantiques, que ce soit du Pacifique ou de l'Atlantique. Il va parcourir 1,7 million de kilomètres, ce qui est énorme, et transporter en toute sécurité 16 500 passagers. Donc c'est vraiment un très grand succès. Mais les Allemands ne s'arrêtent pas là. En 1936, ils sortent un dirigeable encore plus grand, qui est le Hindenburg. Donc ce dirigeable, il fait 245 mètres de long, il fait près de 200 000 mètres cubes de volume, ce qui est vraiment gigantesque. Il est plus puissant, beaucoup plus puissant, il va plus vite, 130 km à l'heure en croisière, à peu près la même autonomie, et surtout il emmène beaucoup plus de passagers. Il y a à peu près 50 hommes d'équipage, et dans sa dernière version, il pourra embarquer 70 passagers. Ici, vous avez, alors on ne le voit pas très bien, c'est à cause de l'écran, ici vous avez le premier dirigeable d'Henri Giffard, ici le Hindenburg, et là on ne le voit pas bien, mais ici, un 747, pour vous donner un ordre d'idée, le 747, la longueur du 747, c'est à peu près la longueur des empennages de ce dirigeable géant. Donc, le poste de pilotage est dans cette nacelle, mais tous les passagers se retrouvent dans une sorte de cabine géante qui est dans l'enveloppe du dirigeable. Cette partie-là, vous la retrouvez ici. Et donc, dans cette partie-là, se trouvent des salons de chaque côté, avec des baies vitrées, qui permettent d'observer ce qui se passe à l'extérieur en vol, de manger en regardant soit l'Atlantique, soit la cordillère des Andes, etc. Et tous les passagers ont des cabines individuelles, avec des lits doubles, tous construits en aluminium. Et pour la petite histoire, ce dirigeable est le premier à être équipé d'une cuisinière électrique, car il était interdit de faire du feu à bord. Les passagers, lorsqu'ils montaient à bord, devaient quitter leurs chaussures et revêtir des chaussures avec des semelles de crêpe pour éviter les problèmes d'électricité statique. Et il y avait même un piano. Et pour gagner du poids, le piano avait été entièrement en aluminium, pour la petite histoire. Et il y avait également un fumoir. On avait le droit de fumer. Mais toutes les allumettes étant contingentées, il y avait un homme d'équipage qui était là pour allumer les cigares ou les cigarettes des passagers. En fait, ce dirigeable aura une vie très courte, puisqu'il disparaîtra le 6 mai 1937. C'est un événement qui est assez connu, puisque les actualités cinématographiques étaient sur place. À Lakehurst, dans New Jersey, à côté de New York, il va partir en flammes. Pour la petite histoire, aujourd'hui encore, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Longtemps, on a parlé de sabotage. Aujourd'hui, on pense que c'est un problème d'origine électrostatique qui a mis le feu à ce dirigeable. Toujours est-il, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images du dirigeable en feu, qui sont quand même très impressionnantes, parce que ce dirigeable géant va partir en poussière en moins d'une minute. Malgré ça, il y aura effectivement des morts, 34 morts, mais il y aura 62 personnes qui survivront, puisque le dirigeable, au moment où il s'enflamme, et s'enfonce, je dirais, sur le sol, et les passagers pourront, dans la fournaise, s'échapper des zones vie et, en courant, quitter les débris en flammes du dirigeable. Donc, en fait, il y a eu plus de survivants qu'il y a eu de morts lors de cet accident. Mais cet accident va terminer, en fait, l'ère des dirigeables géants. Et après, on ne construira plus, en fait, de dirigeables pour transporter des passagers quasiment. Donc aujourd'hui, juste pour terminer, j'aimerais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des dirigeables. Donc il existe encore quelques dirigeables, quelques fabricants de dirigeables pour des applications civiles. Donc la firme Zeppelin, en fait, qui avait disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, a réapparu il y a une quinzaine d'années et fabrique des petits dirigeables qui servent à faire de la publicité ou du voyage aérien local. Une autre firme qui est très célèbre, c'est la firme Goodyear, hein, qui elle, a fabriqué des dirigeables pendant plus de 50 ans et qui continue à en fabriquer, bon, surtout dans des buts de publicité. Hein, je pense que tout le monde en a vu, ces dirigeables qui servent lors de certaines manifestations, championnats du monde de foot, etc. Et l'un des derniers dirigeables à application civile en date, c'est le dirigeable de Jean-Louis Etienne, le Polar Airship, en fait, qui devait lui aussi participer à des expériences scientifiques au pôle Nord, et qui, il y a à peu près un an, hein, je crois, basé dans le sud de la France, a été emporté par une tempête et venu s'écraser sur une maison. Donc ce dirigeable, en fait, aujourd'hui n'existe plus. Bon, il y a les militaires qui sont très intéressés par les dirigeables, pour deux types d'applications aujourd'hui. La première application, c'est le transport de charges lourdes. Aujourd'hui, les militaires américains, entre autres, financent des dirigeables géants qui permettraient d'emporter des charges, des chars, des hommes de troupes, etc. Donc, ils ont fait construire des prototypes. Ici, c'est un prototype de Lockheed qui permet de corriger certains défauts des dirigeables. Parmi les défauts des dirigeables, c'est leur sensibilité au vent lorsqu'ils arrivent au sol. Donc, ce dirigeable à trois lobes séparés, une forme aérodynamique pour des vents qui viennent de côté, si vous voulez. Et il est équipé de sortes de coussins d'air réversibles qui peuvent servir de ventouse. C'est-à-dire que quand le dirigeable arrive au sol, plutôt que de faire un coussin d'air, on inverse le flux d'air et on crée une dépression et on vient plaquer le dirigeable au sol. Voilà sur quoi travaillent les militaires américains aujourd'hui. Peut-être ce type de dirigeable rentrera-t-il en service dans les années qui viennent. Et un autre type d'application qui existe en fait depuis plus de 40 ans, c'est d'utiliser les dirigeables comme radar volant. Un radar qui est basé au sol voit sa portée limitée à cause de la forme de l'enveloppe terrestre et vous avez une portée assez limitée de quelques dizaines, centaines de kilomètres. Si vous embarquez un radar à très haute altitude, vous êtes capable de voir bien au-delà de l'horizon sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Et le dirigeable, il offre un autre gros avantage, c'est que vous pouvez mettre une antenne radar de la taille de l'enveloppe. Imaginez un peu la portée d'une telle antenne radar. Donc aujourd'hui, les Américains travaillent sur des dirigeables stratosphériques, embarquant un radar à très longue portée et qui pourrait rester en vol autonome, même sans équipage, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Juste pour compléter, vous avez vu des formes de dirigeables à peu près communes, on va dire. Il y a des gens qui ont essayé des formes un peu plus exotiques, entre autres des formes lenticulaires, toujours pour limiter le problème de dirigeabilité de ce genre d'engin près du sol. Donc il y a eu des dirigeables lenticulaires qui ont été testés. Et puis, pour terminer, j'aimerais rester sur une note un peu plus poétique, des dirigeables à pédales, ça existe, avec des tentatives, par exemple, de traverser de la Manche qui ont échoué, en fait, sur des dirigeables à pédales. Voilà. C'est encore à faire. Il existe aussi, tous ces dirigeables sont gonflés avec un gaz, hein, que ce soit au départ l'hydrogène, aujourd'hui l'hélium, mais il existe aussi des montgolfières dirigeables, hein, c'est-à-dire des montgolfières qui ont une forme allongée et qui sont équipés d'un petit moteur et qui permettent de ne pas être tributaires en fait, des courants aériens. Voilà. Donc c'était vraiment une présentation très, très succincte de l'histoire des dirigeables, parce qu'on aurait pu parler des dirigeables militaires. Les Américains ont construit des dirigeables géants, qui s'appelaient l'Akron et le Macon, et se sont même servis de ces dirigeables comme porte-avions. C'était des dirigeables où il y avait une escadrille d'avions embarqués dans la carène, 5 avions, et ces avions étaient là pour protéger le dirigeable des attaques aériennes. Ces 2 dirigeables géants ont aussi disparu tragiquement dans des tempêtes, et les Américains ont arrêté à leur tour à construire des dirigeables géants. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'histoire des dirigeables, il y a pas mal d'ouvrages qui leur sont consacrés, beaucoup sur les Zeppelins. Si vous n'aviez, je pense, qu'un seul livre à acheter, c'est ce livre-là qui s'appelle « Dirigeable », fait par Henri Beaubois. Vous pourrez le voir peut-être demain si vous allez au salon, donc, qui m'a beaucoup aidé pour cette présentation. Et puis vous pourrez aller aussi au Musée de l'air et de l'espace au Bourget, bon, qui est plutôt consacré aux plus lourds que l'air, aux avions, mais vous y trouverez une nacelle complète d'un dirigeable allemand de la Première Guerre mondiale, qui était le LZ-113, et vous pourrez voir comment était fabriqué ce type de dirigeable. Ça ressemble plus à un bateau qu'à un engin volant. Et puis, je peux vous conseiller également d'aller visiter le musée Zeppelin, qui est à Friedrichshafen, à proximité du lac de Constance, hein, le lieu historique de la firme Zeppelin, où là, vous pourrez visiter en fait la reconstruction de la cabine du Hindenburg, enfin une moitié de cabine parce que c'est asymétrique. Donc vous pourrez voir comment étaient fabriquées à l'identique les cabines pour les passagers, le salon, etc. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Et puis ce qui ne gâte rien, vous n'êtes pas très loin des châteaux de Bavière, donc vous faites quelques kilomètres et vous pourrez aller visiter les différents châteaux de Louis II de Bavière. Évidemment, sur Internet, on trouve pas mal de choses. Il y a un site français qui est très bien fait, qui s'appelle Carnet de vol, où vous trouvez beaucoup de choses sur les dirigeables. Et puis, des sites américains et allemands qui retracent en détail aussi l'histoire des dirigeables. Voilà.
Bon, maintenant, on va donner la parole à Jean-Daniel Ouvrard, parce que lui, c'est du concret. Il sait de quoi il parle, si je peux dire. Et puis, s'il y a des questions, après, on va réunir, on regroupera toutes les questions à la fin.
Oui, bonsoir. Alors, j'ai un petit désavantage avec mes 2 prédécesseurs, c'est qu'en fait, ils ont un petit support à l'écran, alors que moi, je n'ai rien du tout. Je vais simplement vous parler de ce que je fais et de ce que j'utilise pour faire des vols en montgolfière. Alors, il faut savoir que des montgolfières, il y en a, on va dire, il y a à peu près 1000 montgolfières en France actuellement. Elles sont pratiquement toutes en état de voler. Ces montgolfières, ce sont des ballons qui sont composés d'une enveloppe, en nylon. C'est du nylon enduit de polyuréthane, donc ça a bien évolué hein, depuis les premières montgolfières. Nylon enduit de polyuréthane, il y a différents volumes. Vous avez des 1200 m3, 1800, 2002, 2006, 3000, 6000, jusqu'à 24 000 m3. Alors bien sûr, plus le volume est important, et plus vous pouvez transporter, plus vous pouvez soulever. J'utilise des ballons qui sont des ballons très, très moyens que l'on trouve le plus régulièrement. Ce sont des ballons entre 2600 et 3000 m3 et qui permettent d'emmener deux ou trois passagers. Voilà, on peut sur un 2600 ou sur un 3000 m3 emmener deux ou trois passagers. Alors ça, donc c'est pour ce qui est de l'enveloppe. On a également, au niveau de la nacelle, c'est toujours des nacelles qui sont en retin. Alors pourquoi du retin ou de l'osier? C'est parce que on a des atterrissages des fois très, très difficiles et très musclés. Et ce qui permet de... L'osier se déforme, ne rompt pas, ne casse pas, et est très protecteur. C'est vrai qu'il y a des atterrissages qu'on appelle, nous, rock'n'roll, et on n'a rien trouvé de mieux que le rotin ou l'osier. Pour ce qui est de l'alimentation de la montgolfière, donc on a un brûleur avec des tuyauteries et qui sont reliées à des bouteilles de gaz. Et ces bouteilles de gaz, ce sont du gaz propane qui est en phase liquide à moins 43 degrés dans les bouteilles, voilà, et qui nous permet donc de réchauffer l'intérieur de l'enveloppe. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc pour ce qui est des vols, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y a deux possibilités. On peut faire deux vols dans une journée. C'est vol du matin ou vol du soir. Le vol du matin se fait au lever du soleil et le vol du soir 2 heures avant le coucher du soleil. Tout ça parce qu'il nous faut des conditions météo extrêmement bonnes. C'est-à-dire un vent inférieur à 8 nœuds au sol, 16 km/h environ. Alors ça peut être un petit peu plus, hein. Ça nous arrive de voler avec 10, 12, peut-être même 15 nœuds, ça nous est arrivé. Par contre, plus la vitesse du vent est importante, plus l'atterrissage est long et on termine au-delà de 8 nœuds, on termine la nacelle renversée et on traîne au sol jusqu'à temps que le ballon soit dégonflé. Et là, c'est très délicat. Il suffit simplement, on donne toutes les précisions nécessaires aux passagers en vol, les consignes de sécurité lorsqu'on a des atterrissages aussi musclés. Pas d'intempéries, c'est-à-dire pas de pluie, pas de neige, une très bonne visibilité. Généralement, on vole quand il fait du soleil, puisque une enveloppe qui est mouillée, d'abord, ça alourdit le matériel, donc on consomme plus. Et en plus de ça, il est très difficile de sécher ce genre de matériel. Hein. Si on veut le sécher, d'abord, on peut pas le laisser pendant une semaine complètement mouillé à l'intérieur d'un sac, parce que c'est comme une toile de tente. Ça finit par moisir. Et alors si ça nous arrive de temps en temps d'avoir quelques gouttes de pluie parce qu'on est juste après une perturbation et on essaye de faire le vol le plus près du temps qu'il nous reste pour pouvoir réaliser ce vol. Et donc un ballon qui est mouillé, il faut simplement le sécher ou voler très rapidement après, c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui suivent, ou alors donc on utilise une grande salle omnisport avec des plafonds très très grands afin de pouvoir le ventiler. Voilà. Vous pouvez bien sûr, si vous avez des questions, me poser des questions parce que je vais peut-être un peu partir dans tous les sens. Deux possibilités donc de vol du matin ou vol du soir. On peut voler au ras du sol, comme vous pouvez monter à 1000, 2000, 3000 mètres d'altitude. Je dirais qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est la température extérieure. Plus vous montez, vous perdez à peu près 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Donc, quand on est en très haute altitude, c'est un froid qui est très sec. C'est ce que je disais tout à l'heure à certaines personnes. Lorsqu'on a moins 30 degrés en altitude, c'est un froid sec, c'est très supportable. Il vaut mieux avoir moins 30 en haut que moins 5 au sol, puisque au sol, il y a l'humidité et puis également, il y a le vent. Donc là, nous allons à la vitesse du vent. Donc vous ne sentez pas du tout le vent, donc c'est très agréable. Pour ce qui est des conditions météo comme ça, il faut imaginer qu'en ballon, la plupart des gens me disent « Ah oui, mais en ballon, il va faire très froid. » Voler en ce moment, il ne fait pas froid du tout. Vous accompagnez le vent, vous ne sentez pas le vent. Vous avez le rayonnement solaire. C'est comme si vous étiez chez vous, à l'abri du vent, à l'abri d'un mur et en plein soleil. Donc, c'est super agréable. Je ne dis pas qu'on vole en t-shirt actuellement, hein, mais c'est très, très agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc pour ce qui est des vols, on prévoit de l'oxygène à partir de 3000 mètres, puisque chez certaines personnes, ça dépend des capacités physiques des passagers. À partir de 3000, on prévoit de l'oxygène. Certaines personnes supportent très bien, certaines autres personnes quand vous avez des passagers qui commencent à rigoler, à devenir un petit peu bizarre au niveau du comportement, il faut être très vigilant parce que on a de temps en temps des surprises. On peut, comme je vous disais, moi, j'ai un record d'altitude à 4359 mètres sans oxygène, mais après, à partir de 3000, on prévoit. Il y a possibilité de faire des vols d'une heure, deux heures, voire beaucoup plus long, puisqu'on peut réaliser des vols de nuit. Alors ça peut être décollage le soir au coucher du soleil et poser le matin au lever du soleil. Alors vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. C'est super agréable et on voit très très bien. Il faut savoir que quand on réalise un vol de nuit, on décolle par une pleine lune avec un ciel étoilé et donc on voit très très bien le sol. Le dernier vol de nuit que j'ai réalisé était un vol avec un décollage de Blois sur les bords de la Loire. Nous sommes montés à 3660 mètres. Alors, au décollage, on avait moins 7 degrés et à 3660 mètres, on avait moins 30. C'était un 4 janvier et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant d'étoiles filantes de ma vie. Si j'avais dû faire un souhait à chaque étoile filante, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, il y a possibilité également de décoller en pleine nuit et toujours de se poser le matin au lever du soleil. Vous allez me dire, mais la montgolfière, comment est-elle comment la voit-on dans le ciel par rapport aux avions? Alors d'abord, il y a un plan de vol qui est établi, sachant que nous, on va au gré du vent, donc c'est assez délicat, hein, c'est fait très près du vol. Et puis, on a un système lumineux qui est situé 7 mètres sous la nacelle. Et donc, ce système lumineux, c'est exactement comme les avions, hein, avec une lumière qui tourne à 360 degrés et qui permet donc de nous voir. Et puis donc, le poser se fait au lever du soleil le matin. Et c'est super agréable. Ça, c'est pour ce qui est des vols de nuit. On peut également, je réalise également des largages de parachutistes, c'est-à-dire larguer des parachutistes comme les avions, hein, à partir de 1200 mètres, on peut larguer. Puis on peut larguer également 3000, 4000. Je fais également des vols avec activité particulière. Alors, activité particulière, c'est l'emport de trapézistes. C'est-à-dire qu'on emmène une trapéziste à l'intérieur de la nacelle. Lorsque nous sommes à 300 mètres du sol, cette trapéziste descend et puis fait du trapèze à 1000 mètres d'altitude, à 2000, à 3000. C'est beaucoup plus intéressant que de faire du trapèze sous un chapiteau à 20 mètres de haut. Donc ce sont des choses que l'on peut réaliser. J'ai également réalisé des compétitions, compétitions championnat de France. On a donc un championnat de France qui a lieu chaque année, Coupe d'Europe, championnat du monde. Donc il y a une possibilité de compétition en ballon. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas. Hein, je veux bien répondre à des questions parce que. Alors, la formation pour pouvoir piloter. Alors, donc, on peut apprendre à piloter à partir de 17 ans. Il existe donc des instructeurs qui vous apprennent à piloter. Il faut savoir que pour être pilote de ballon, donc on passe un brevet de pilote, comme l'avion. Tout ce qui est météorologie, réglementation aérienne, c'est la même chose que les avions. Par contre, pour ce qui est de la manipulation du ballon, c'est tout à fait différent. Hein. On ne manipule pas un avion un ballon comme un avion. Il y a 12 heures de vol minimum avec instructeur. Alors, je dis bien c'est minimum, hein, c'est un petit peu comme le permis de conduire. Vous pouvez être apte très rapidement, mais vous pouvez aussi faire 20 heures de formation ou 30 heures. Je parle formation pilote. Hein. Après, il y a ce qui est formation, réglementation et tout ça, tout ce qui est théorie. Et puis, ensuite, après avoir réalisé ce minimum de 12 heures de vol avec instructeur, il vous reste 2 heures de vol solo. et une ascension à plus de 1000 mètres. Voilà, pour pouvoir... Après, vous ne pouvez pas transporter des passagers en ayant ce brevet de pilote, puisque la réglementation nous impose d'avoir un minimum de 50 heures de vol en tant que commandant de bord avant de pouvoir faire des passagers à titre onéreux. Ah non, non. Alors, vous pouvez emmener des personnes de votre famille, mais pas des passagers à titre onéreux. Hein. C'est, voilà, c'est 50 heures de vol minimum pour pouvoir emmener des passagers à titre payant. Donc, voilà, c'est ce qui est, pour ce qui est pour ce qui est de la formation, voilà, en tant que pilote. Alors, il existe une fédération française d'aérostation, la fédération française d'aérostation, qui regroupe tous les pilotes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 pilotes en France. 1000 pilotes. On va dire que il y a 600 pilotes qui pilotent assez régulièrement. Les autres sont des pilotes qui ne pilotent plus. Mais qui sont toujours donc brevetés. Et puis, il y a quand même une minorité de femmes qui se sont mises à la montgolfière. Il faut savoir que depuis 1972-1975, on a une progression du nombre de ballons en France. Ici, vous êtes dans un département où a eu lieu deux championnats de France à Châtellerault, un pré-championnat du monde et un championnat du monde. C'est même la capitale de l'aérostation, Châtellerault. Voilà, ce qui fait que ça a donné un engouement à beaucoup de personnes. Et donc, on retrouve, je crois que nous sommes à peu près une quinzaine de pilotes ici, dans le département de la Vienne. Certains départements, il n'y a aucun pilote. Hein, donc, voilà. Y a-t-il des questions ? Est-ce que... Si jamais vous... Ah, du plaisir que l'on a. Alors, c'est extraordinaire en ballon, puisque on a un champ de vision de 360 degrés, que vous êtes à l'air libre, et vous avez des sensations extraordinaires. Vous êtes simplement suspendu à un petit bout de tissu dans une nacelle, et vous venez flirter avec la nature au ras du sol et vous montez en très très haute altitude. Ce sont vraiment des sensations extraordinaires. C'est à faire. Et la plupart des gens qui n'ont pas fait ont des appréhensions. Des fois, j'entends des gens qui me disent oh là là, mais mais on va avoir le vertige. Moi, je me sens pas bien. Ben, en fait, s'ils montent avec moi, ils montent avec un pilote qui a le vertige. Je ne monte pas à 3 mètres dans une échelle. Je ne monte pas sur une toiture. Je me penche pas à un balcon. Par contre, je monte à 4000 mètres d'altitude. Et en fait, c'est la relation avec le sol qui vous donne la sensation de vertige. Donc, je vous assure, c'est extraordinaire. C'est à faire. D'ailleurs, quand vous avez fait un vol, vous en redemandez un autre et encore un autre. Parce que en plus, chaque vol est différent. Vous pouvez décoller 10 fois du même endroit. Ce ne sera jamais la même trajectoire, jamais la même vitesse de vent. Jamais vous irez vous poser au même endroit. Pas les mêmes conditions de lumière. Ce ne sera jamais la même lumière, jamais les mêmes conditions. Donc, chaque vol est différent. Voilà, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Oui. Alors, bien sûr, il y a donc du matériel qui est obligatoire. C'est un altimètre pour que nous puissions avoir l'altitude. Variomètre pour savoir à quelle vitesse on monte et à quelle vitesse on descend. Radio aérienne, puisque nous sommes en relation avec les avions. Il faut savoir que nous sommes prioritaires sur les avions puisqu'on ne peut que monter ou descendre. Alors, ça nous arrive de temps en temps de voir des avions en dessous, d'en avoir au-dessus. Souvent, plus en dessus pour les gros. C'est tout. Hein, c'est altimètre, variomètre, GPS qui n'est pas obligatoire, mais qui est très utile maintenant hein, puisque Ça nous permet d'avoir la vitesse de déplacement du ballon, savoir à quelle vitesse on vole, d'avoir les trajectoires. Et le GPS également est utilisé quand on fait de la compétition, puisqu'on fait donc championnat de France et Coupe d'Europe. Donc on a besoin de ces outils-là. Non, pas du tout, parce que je vais vous dire, si on avait une ancre à l'intérieur de la nacelle, on aurait donc, après le lancer de l'ancre, s'il y a un blocage au sol, et en fait, vous seriez projeté complètement vers l'avant. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez en vélo et que vous arriviez contre un mur. Le vélo va s'arrêter en premier, et vous allez être projeté en avant. Hein. Donc, c'est hyper dangereux. Non, surtout pas. Hein. Non, en fait, pour se poser, c'est pas très compliqué. On a une soupape qui est en haut du ballon. Et il suffit simplement d'ouvrir la soupape. Ça évacue l'air chaud et ça nous fait descendre. Alors, on s'en sert pour se poser. De temps en temps, on s'en sert même pas du tout. Quand les conditions sont très calmes au sol, vous pouvez descendre tout en douceur au sol, poser le ballon. Le ballon va rester debout et ne va pas bouger. Quand on a un vent supérieur à 8 nœuds au sol, là, par contre, vous allez arriver très rapidement au sol. La nacelle va se renverser. Vous allez traîner au sol sur 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou 100 mètres. Voilà. Mais la soupape sert également lorsque nous sommes en très haute altitude et lorsqu'on est sur des vols de montagne. Lorsqu'on vole à 4 ou 5 000 mètres d'altitude et que l'on doit se poser très rapidement dans un fond de vallée. Alors, je vous donne, c'est par expérience, puisque je fais des vols sur le Mont Blanc. Nous décollons dans la vallée de Chamonix. Et puis, donc, les montagnes sont entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Et si nous avons besoin, d'ailleurs, nous avons besoin de nous poser à un moment ou à un autre. Hein, et si nous sommes à 4 000 mètres d'altitude, on a besoin de descendre très rapidement. Et descendre très rapidement, pourquoi ? Parce que pour se poser dans une vallée, c'est une route, une ligne de chemin de fer, un torrent, deux, trois terrains qui sont plats, et ensuite on a des pentes qui sont à 20 ou 30%. Donc si vous ratez le centre de la vallée, eh bien, alors si vous n'avez pas tout à fait atteint le centre de la vallée, il suffit de remonter, vous reprenez le vent et vous allez revenir vous caler. Par contre, si vous êtes allé un petit peu trop loin, eh bien, c'est trop tard. Il faut remonter à 3 ou 4 000 mètres d'altitude et aller chercher la vallée suivante. Il faut savoir qu'en haute montagne, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure supplémentaire. Et que quand on a raté deux vallées, trois vallées, après, c'est une question d'autonomie et également une question de changement de météorologie. Donc, il faut rester très, très vigilant. La haute montagne est très, très technique. Hein. Ah, écoutez, moi j'ai plus de 2000 heures de vol et les brûleurs, je ne les entends plus. Effectivement, quand vous êtes au sol, vous avez l'impression que c'est très violent et très fort, mais c'est parce qu'il faut savoir que le bruit descend très très bien. Vous n'avez aucun obstacle entre vous et le sol. Donc, c'est une relation directe. Donc, c'est pour ça qu'on entend très... Et en plus, ça fait écho, en fait. Hein. Alors que quand on est dans la nacelle, c'est très, très agréable. Et on les oublie, pas complètement, mais je dirais qu'au bout du vol, on les a complètement oubliés. Hein. Tout dépend ce que vous faites. Si vous êtes en vol, je dirais, sans changer d'altitude, on va dire, d'ailleurs, j'ai jamais calculé, d'ailleurs, peut-être toutes les 2-3 minutes, et encore, tout dépend la chauffe que l'on a fait précédemment. Donc, je dirais que, et c'est en plus, si c'est un vol qui reste bien à plat, ce sont des tout petits coups de brûleur pour maintenir juste le niveau. Hein, c'est... après, on peut, lors de descentes très rapides, comme je disais tout à l'heure, là, on a besoin d'utiliser le double brûleur, parce que quand on fait des descentes à 7-8 mètres secondes, c'est très rapide, hein, 7-8 mètres secondes, c'est très impressionnant. Quand on est en très haute altitude, ça va. Quand le sol se rapproche, c'est là on s'aperçoit que ça descend très vite. Et donc, on utilise le double brûleur, on a des doubles brûleurs. D'ailleurs, je vous invite demain à venir éventuellement donc au Salon du Livre, puisque vous pourrez découvrir une des nacelles que je possède, et donc vous pourrez voir le fonctionnement et voir comment c'est composé. J'utilise le double brûleur pour ralentir la vitesse du ballon. Et quand on fait des descentes très très froides, un ballon qui fait 18 mètres de diamètre peut perdre 3 à 4 mètres de diamètre. Et quand on le regarde, il est en forme de banane. Très impressionnant. Les gens qui sont au sol peuvent s'apercevoir d'un ballon complètement déformé. Et c'est vrai que les gens pensent qu'on est en difficulté. Alors, plus vous descendez rapidement, plus le ballon se resserre et plus la bouche se resserre. Donc, il suffit de remettre de la chaleur à l'intérieur, hein, de bien chauffer l'intérieur. On utilise le double brûleur. Et le ballon va ralentir au niveau de la vitesse, hein, jusqu'à se poser tout en douceur. Ça reste voilà, mais les descentes froides en haute montagne sont très impressionnantes. Y a-t-il des questions ? Alors voilà, il y a tout un tas d'épreuves qui sont proposées. On a des cibles qui sont au sol, qui sont déterminés, on va dire, 2 heures, 3 heures avant le vol. Pourquoi cet espace très court ? Parce que la météorologie évolue entre le début d'un vol et la fin d'un vol. La météorologie n'est déjà plus la même. Hein. Et donc, ces cibles nous sont proposées. Et ce sont des cibles, ce sont des croix qui font 10 mètres sur 10, qui sont donc situées au sol. On a des petits marqueurs, ce sont des petits sacs de sable, voilà, avec un petit flambeau en nylon. Et puis, donc, il suffit simplement de venir positionner ce marqueur sur le centre de la cible. Alors, je vais vous dire, c'est assez difficile d'aller au centre de la cible. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, mais donc c'est vraiment faire le centre de la cible. Mais après, les distances sont calculées fonction du largage du marqueur. Donc maintenant, avec les GPS et tout ça, on calcule. Il y a des observateurs au sol qui vont calculer la distance à laquelle on a jeté le marqueur. Et donc, il y a un classement qui est fait pour tous les pilotes. Alors ça, c'est pour ce qui est des cibles. Alors on peut avoir une cible, 2 cibles, 3 cibles, 4 cibles sur un même vol à des endroits tout à fait différents, hein, pas du tout dans la même trajectoire. Donc après, il suffit simplement de travailler en fonction des différents vents aux différentes altitudes. Et puis, voilà comment on pilote un ballon, en fait. Hein. Il n'y a pas que la montée et la descente. Et puis après, il y a d'autres épreuves qui sont proposées. Un ballon qui décolle 10 minutes avant vous, et vous devez aller vous poser le plus près possible de ce ballon. Il faut savoir que les 10 minutes, c'est une variation au niveau de la météorologie. Ce n'est plus du tout la même chose. Et qu'il faut essayer de trouver les bonnes altitudes, parce que ce ballon, il ne va pas rester tranquillement, toujours à la même altitude. Hein. Il va monter, descendre rapidement, chercher des vents un petit peu, prendre 20-30 degrés par rapport à la trajectoire initiale. Enfin bon, donc il complique beaucoup la chose. Mais on essaye d'aller au plus près de ces cibles. À vue, voilà. Ah ouais, tout à fait. D'ailleurs, la seule épreuve qui est purement où on revient avec pratiquement pas de matériel, si ce n'est l'altimètre et la radio aérienne, c'est la Coupe d'Europe, puisque on n'a pas le droit d'utiliser de GPS. Alors, pas de GPS dans la nacelle et pas de GPS parce que au sol, il y a aussi l'équipe au sol. Qui fait ce qu'on appelle le retrouving. Et ils n'ont pas le droit non plus d'avoir de matériel comme ça pour nous donner aucune indication. Alors là, on parlait de compétition. Alors, il y a un pilote dans un ballon, mais il y a aussi une équipe. Et c'est un vol en ballon, c'est un travail d'équipe. Tout seul, je ne peux pas faire du ballon. C'est impossible. Un ballon qui fait 20 mètres de haut... qui fait 17 mètres de diamètre, il est impossible de le gonfler tout seul. Il faut minimum, je dis bien 2, mais encore à 2, c'est très difficile. Hein. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'équipe qui est fait. Et les gens qui nous suivent au sol, ce qu'on appelle les retrouving, sont d'excellents navigateurs. Et donc, chaque retrouving travaillent en collaboration étroite avec les pilotes et donc connaissent, chacun connaît bien son pilote et on a des petites choses pour nous retrouver très facilement et c'est tout un travail. Certaines personnes ici font ce genre de choses. Voilà, avec moi, Pierrot, qui est ici, a réalisé plus de 1000 récupérations en ballon. C'est très délicat. Il ne faut pas croire qu'on regarde simplement le ballon partir et on va le suivre comme ça. Nous, on va faire, on va dire de la ligne droite à peu près, mais il faut aller prendre des routes qui vont dévier la trajectoire par rapport au ballon. Il y a des éléments naturels comme les rivières ou les autoroutes. Il faut aller chercher les ponts très très loin. Et ce qui est très important, c'est que l'équipage au sol soit à l'atterrissage. Pour des raisons, d'abord parce que pour voir où est posé le matériel, on a besoin de récupérer le matériel et les passagers. Et puis pour des raisons de sécurité, parce que quand on a des atterrissages un peu délicats, très important. Ça m'arrive de temps en temps de demander à mes coéquipiers, lorsqu'un vent est assez important, de couper ma trajectoire. C'est-à-dire de trouver une route ou un chemin qui va couper ma trajectoire. Ils descendent. Et lorsque j'arrive sur un chemin, c'est le blocage sur le chemin pour ne pas aller dans la récolte. Parce que ça aussi, c'est toute une difficulté de ne pas aller dans les récoltes. Hein. Un avion, il va décoller d'une piste, il va se reposer sur une piste. Nous, on décolle avec autorisation sur un terrain. Par contre, quand on va se poser sans autorisation dans un terrain privé. Donc, il est très important de ne pas se mettre dans des cultures, d'abord par respect pour le travail fait par les agriculteurs. Et puis, je côtoie un propriétaire de terrain qui ne m'a pas invité. Donc vous comprenez qu'il est préférable d'avoir d'excellentes relations quand on se pose et si on veut une belle image du ballon, quelque chose de très pur et de très sain, et bien il faut faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je leur demande de couper ma trajectoire, de m'arrêter. Voilà. C'est... Ah oui, peut-être que certaines personnes n'ont pas vu comment on met en place une montgolfière. Donc, alors d'abord, le vol par lui-même. D'abord, c'est une question de météorologie. Donc, on appelle Météo France. C'est obligatoire. Météo France va nous analyser dans un rayon de 30 km tout ce que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire la vitesse du vent au sol, à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 200, à 500, à 1000. Donc ça permet déjà de connaître toutes les conditions pour le vol. Ensuite, on lâche un petit ballon gonflé à l'hélium. Ce petit ballon va nous donner la trajectoire au sol. Donc on va prendre note de cette trajectoire. On va déplier le ballon dans le sens de la direction du vent. Et une fois que le tissu est allé au sol, on va utiliser un ventilateur. Et ce ventilateur permet donc de gonfler le ballon à l'air froid. Et puis après, on termine à l'air chaud, c'est-à-dire qu'on chauffe l'intérieur du ballon qui permet l'élévation du ballon. Voilà. Voilà pour ce qui est de la préparation. Le dégonflage, c'est la même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ouvre la soupape, on évacue l'air chaud. Une personne tire une corde, ce qu'on appelle une corde de manœuvre, qui est située tout à fait en haut du ballon et qui vient redescendre à la nacelle. Cette corde, on la donne au coéquipier qui va tirer le ballon dans le sens du vent et qui va permettre de dégonfler le ballon. Voilà. Ça tient un ballon de 20 mètres de haut, ça tient dans un sac 1 mètre de haut, vraiment un petit sac. C'est très impressionnant quand on voit un ballon dans un sac. On se dit, c'est pas possible, c'est un tout petit ballon. Mais non, c'est... c'est très... Quelques questions encore supplémentaires, je veux bien. Oui. Ah, c'est très cher. Très, très cher. Ils mettent beaucoup de temps, mais c'est très important. Parce qu'on ne peut pas se permettre de partir sur un vol avec des données qui sont très moyennes ou qui On a absolument besoin d'avoir des données météo très précises et très précises dans le temps, puisque, comme je disais, entre le moment du décollage et le moment de l'atterrissage, ce n'est plus du tout la même chose, ce n'est plus les mêmes vitesses de vent, ce n'est plus les mêmes conditions météo, et qu'on a des impératifs de topographie, qu'on a des impératifs, il faut se poser au coucher du soleil. Quand vous êtes très proche du coucher du soleil, on ne peut pas se permettre. Donc il faut voir la région dans laquelle on vole et bien la connaître. Et on ne part jamais faire du ballon dans une autre région sans avoir donc des données météo très précises et sans avoir des avis de pilotes locaux qui nous donnent d'excellents renseignements. On est allé faire une compétition, par exemple, au Nouveau-Mexique. Et dans le désert du Nouveau-Mexique, ça paraît très simple. Vous vous dites, ah bah oui, mais c'est extraordinaire. C'est le désert, donc il n'y a pas trop d'obstacles. Mais chaque région est difficile, délicate. C'est pas du tout la même météorologie. C'est pas la même topographie. Donc il faut gérer toutes ces choses-là. Par exemple, en haute montagne, c'est exactement la même chose. Les brises de pente, les changements très rapides de météorologie en haute montagne et tout ça. Donc on prend toujours d'excellents conseils et même assez régulièrement, on part avec d'autres pilotes locaux pour réaliser des vols dans des régions comme ça. Oui. Non, pas du tout. C'est un règlement à chaque communication. Hein. Et donc, c'est un peu plus d'un euro la minute. Hein. Donc, par contre, c'est très important. Même si je passe, ça m'arrive de temps en temps de téléphoner. Oui, c'est vrai. Oui, alors je dois savoir qui c'est, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, mais vous savez, quand on a des habitudes avec des météorologues, parce que moi, je vole beaucoup, je fais partie des quelques pilotes français qui volent le plus en moyenne en France, hein. Je fais à peu près un vol tous les deux jours. Donc quand vous enlevez la pluie, le vent, le brouillard, c'est très important. Et donc j'ai donc des habitudes avec des météorologues et je connais les. Il y a certains météorologues que j'ai au téléphone, je préférerais ne pas avoir parce que ils sont toujours légèrement à côté ou voilà. Mais après c'est aussi une question de confiance et une question de. Voilà. Et puis il y a la météorologie, il y a le météorologue, mais il y a aussi le pilote qui prend la décision de réaliser le vol ou pas. Météo France peut vous donner de très bonnes prévisions météo, mais lorsque vous ne sentez pas un vol, pas obligatoirement à cause de la météorologie, mais aussi parce que vu la topographie dans la direction dans laquelle vous allez partir, ça m'est arrivé d'avoir des passagers dans la nacelle, d'être prêt à décoller, d'avoir des conditions météo acceptables pour la réalisation du vol et de ne pas y aller du tout parce que quand on ne le sent pas, on n'y va pas. Voilà. Et ça m'arrive assez régulièrement de prendre la décision de ne pas voler. Voilà. Mais ça, après, c'est aussi des questions de sécurité. Hein, Y aurait-il d'autres questions ? Alors, on va dire que les lignes électriques, c'est ce que n'aiment pas du tout les pilotes de ballon. Il faut savoir que quand on revient au sol, donc on revient donc vers des obstacles. Et la plupart des accidents de ballon sont dus aux lignes électriques. Il faut savoir que quand vous êtes en bas et que vous regardez en haut, lorsque vous êtes au sol, que vous sortez à l'extérieur, ces lignes vont se détacher parce que vous êtes sur des fonds clairs, hein, sur un ciel clair. Par contre, quand vous êtes en haut et que vous regardez en bas, si vous ne voyez pas les poteaux, vous ne voyez pas les lignes. Et alors, le meilleur des pilotes se fait piéger très facilement. Hein. Il faut être sans arrêt à l'affût des lignes électriques. Et en plus de ça, ça ne pardonne que très rarement les lignes électriques. une enveloppe de montgolfière qui va toucher une ligne à 20 000 volts. Elle va s'enflammer, elle va brûler. Si la nacelle est en dessous, la nacelle va se reposer au sol. Il n'y a pas de problème. J'ai un ami qui était un des meilleurs pilotes français, Roger Fugier, qui faisait des vols en haute montagne, extrêmement compétent, professionnel, et qui était vraiment toujours à l'affût de la sécurité et tout ça. Il s'est fait piéger, mais alors sur une ligne électrique dans son pays, chez lui, mais vraiment avec un truc où un poteau était caché, était derrière un arbre, le deuxième était derrière un arbre, et entre les deux, donc il y avait une ligne électrique. Il a vu ce beau terrain qui était extraordinaire. Il a descendu, sa femme était juste en dessous, elle l'attendait. Il n'a jamais vu la ligne électrique. Donc la nacelle a donc touché la ligne. Alors là, quand la nacelle touche la ligne, ça fait un arc électrique. Hein. Les cylindres de gaz souvent se perforent et s'enflamment. Et donc, généralement, même si vous n'êtes pas très haut, hein, parce que les lignes à 20 000 volts, ce n'est pas très haut, les poteaux ne sont pas très hauts, mais généralement, c'est plus tout s'enflamme. Donc, voilà, donc c'est très délicat. Mais ça, c'est le côté... je vais vous dire, des accidents en ballon, il y en a très peu. Je fais 2000 et quelques vols. J'ai eu un incident de vol sur 2000 vols. La seule chose, c'est que j'ai été éjecté lors d'un vol. Je suis même un survivant du ballon. Mais je dirais que c'est pas pire que de prendre sa voiture tous les jours. Et chacun a eu un jour un petit accrochage, un petit... souci avec sa voiture, donc c'est en ballon, c'est pareil. C'est vrai que c'est spectaculaire, c'est très spectaculaire, et ben généralement la presse ça fait vendre des journaux, donc voilà. Mais rassurez-vous, hein, ce sont des incidents rarissimes quand même. Hein. Il est non, je... Ah oui, oui, oui. Voilà, tout à fait. Donc ça s'appelle JDO ou le regard basculé. Ce sont des photographies. Alors des photographies, j'en ai des milliers. Le choix a été très difficile. Mais très très difficile. Hein. C'est des photos du ciel, de la terre, et puis également des photos bien sûr de montgolfière. J'ai déjà réalisé plusieurs ouvrages, dont Conquérant du vent, mais je n'en ai plus du tout. Voilà. Et puis donc ce nouvel ouvrage qui a été fait en collaboration avec Bobby, qui m'a fait le plaisir de. Bobby est mon prof d'école d'art plastique. Dans les années 80, il m'a formé à la photographie. Et voilà, donc ça m'a fait très plaisir que Bobby vienne me faire les textes et participer à la réalisation de ce livre. Donc vous pourrez le découvrir demain au Salon du Livre, ça ne pose pas de problème.
Donc à Blossac demain, on a donc Jean-Daniel Ouvrard avec sa nacelle,
oui. Ses brûleurs, il oui. N'y a pas l'enveloppe.
Elle est dans la remorque,
il n'y a qu'un mot à dire. Et on décolle. Voilà. Si vous voulez. Donc, il y aura au moins des démonstrations. On pourra bien expliquer sur place ce que c'est. Plus les bouquins qui pourront être consultés, ou vous verrez quel genre les bouquins qu'on peut lire pour s'y connaître en ballon. Mais en fait, comme je l'ai dit au départ, hein, dans un bouquin, vous avez une chose. Et puis après, ils ont tous repris le même texte pour le remettre avec des petits paragraphes d'introduction. Voilà. Bon, mais si vous voulez, on se retrouve en haut comme d'habitude. Et puis, il y a Jean-Daniel Ouvrard qui vous proposera son ouvrage. Non, il y en a quelques-uns. Hein, voilà. 20 euros, voilà, c'est ça, dédicacé par l'auteur. Et l'auteur et le... Oui, alors il y a l'auteur et l'illustrateur, on va dire. Il y a les deux. On peut... Voilà. Et merci de votre attention.